Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Diagonale. Eh bien, nouvel invité aujourd'hui, inconnu du monde des échecs pour l'instant, sans doute, mais pourtant, c'est lui qui tient et qui a développé un des serveurs online les plus joués dans le monde actuellement. C'est un Français, il habite en France, c'est un informaticien, c'est Thibaut Duplessis. Salut Thibaut.
Salut Stéphane, merci de m'avoir invité. Bonjour aux auditeurs de Fréquence Diagonale.
Alors, pour te présenter, donc, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément, bien sûr, c'est que tu es le développeur de lichess.org. Hein.
Oui, en effet, lichess.org, qui est un des sites d'échecs qui sont les plus populaires aujourd'hui, classé numéro 2 sur Alexa, et qui a démarré et qui est toujours aujourd'hui un projet, un hobby, donc juste vraiment un projet personnel, sans vocation commerciale.
Oui, alors on va parler largement de Lichess, et avant on va aussi parler de toi. Donc ce serveur, alors moi ce que j'ai trouvé tout à fait étonnant et inattendu, c'est deux choses. Un, que tu sois français, ce qui n'est pas évident au départ, parce que d'ailleurs le développement se fait beaucoup en anglais, on y reviendra. Et deux, en plus, que tu habites à Paris et que tu es très proche du club d'échecs du Canal Saint-Martin. Alors ça, c'est tout à fait étonnant.
Oui. Alors pour le club d'échecs du Canal Saint-Martin, ça vient du fait que là, j'habite à Paris depuis un an et demi. Je vais bientôt quitter Paris, d'ailleurs. Je vais partir en voyage, mais c'est pas lié. Le club d'échecs du Canal Saint-Martin, c'est en fait, on avait décidé sur Lichess de faire des Lichess Meetup. Et une des personnes qui voulait participer à ces Lichess Meetup nous a proposé d'aller dans ce bar-là parce qu'il est chess-friendly et que donc ce serait un bon endroit pour faire les Lichess Meetup.
Alors, lichess.org, site fabuleux hein, pour jouer aux échecs en ligne. Je crois que c'est la plus grande découverte du jeu d'échecs depuis le lancement de Free Chess en 91 ou 92, par là. Je ne sais pas la date exacte, mais ça, c'est assez vieux. Et justement, il y a un cousinage avec Free Chess, on en parlera, et ça va peut-être même au-delà. Mais d'abord, on va parler de toi dans cette première partie en tant que joueur d'échecs, forcément. Hein, tu sais, sur Fréquence Diagonale, il y a quand même beaucoup de joueurs d'échecs qui nous écoutent. Alors, c'est des joueurs d'échecs souvent passionnés, hein, des joueurs qui font des tournois d'échecs, ont un classement officiel. Et toi, alors, c'est pas du tout ça, en fait.
Pas vraiment. Moi, je suis vraiment un amateur à peine éclairé du jeu d'échecs. J'ai appris quand j'étais très jeune, mon papa m'a expliqué le mouvement des pièces. On a fait quelques parties. J'ai quelques souvenirs de ces parties. J'ai par exemple un souvenir assez amusant où mon père n'est pas un bon joueur d'échecs non plus, mais il a le mérite de m'avoir appris. Et par exemple, un jour, il avait son fou qui était encore derrière sa ligne de pion et il a joué la partie de manière psychologique avec moi. J'étais tout gosse, j'avais peut-être 8-9 ans, et il m'a prévenu que quand son fou sort, il tue. Et j'ai été terrorisé par son fou. Et à un moment dans la partie, il a avancé son pion et il a sorti son fou. Et là, j'ai tout lâché prise et ma position s'est complètement effondrée. Et je suis sûr que si je revoyais aujourd'hui la partie, son fou n'avait absolument rien d'extraordinaire. Il m'a juste fait croire qu'il l'était et ça avait fonctionné.
Ouais, donc il a joué la partie en psychologue, en fait. Un peu comme Emmanuel Lasker. Est-ce que tu connais un peu les champions du monde? Lasker, ça te dit quelque chose?
Lasker, ça me dit quelque chose. Je connais les noms parce que je fréquente beaucoup de gens qui sont passionnés par les échecs. Mais je sais assez peu de choses en fait de ces gens-là et j'en sais ce que j'en ai entendu, mais j'ai pas vraiment fait de recherche personnelle.
D'accord, même alors Karpov ou Kasparov, à part le nom, tu connais pas grand-chose de leur carrière?
Alors, Kasparov, c'est difficile d'ignorer sa carrière, forcément, mais Karpov, par exemple, oui, c'est un exemple d'un gigantesque joueur d'échecs dont je ne sais à peu près rien.
Et Bobby Fischer?
Bobby Fischer, je sais quelque chose sur Bobby Fischer, oui.
Ouais, tu sais quelques trucs quand même.
Je sais qu'il a disparu.
D'accord. Et le Grand Philidor, maintenant, tu connais. Hein.
Le Grand Philidor, maintenant, je connais. J'ai lu un excellent bouquin à ce sujet.
Et oui, tu as eu la chance de pouvoir revoir effectivement l'analyse du jeu d'échecs. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Donc, alors voilà, tu n'es pas forcément un joueur d'échecs passionné. Mais enfin si, tu aimes ça quand même, c'est un jeu que tu aimes bien, mais pas au point d'avoir pris une licence, te mettre dans un club et avoir un classement ELO officiel. Mais par contre, tu es informaticien.
Oui, je crois qu'on peut dire que j'ai une plus grande passion pour la programmation, et tout particulièrement l'open source, plus que pour les échecs. D'ailleurs, j'aime bien dire que si j'ai construit lichess.org, c'est pas par passion pour les échecs, c'est par passion pour la programmation. Et si je joue aux échecs maintenant, c'est parce que j'ai construit lichess.org finalement.
Donc tu joues aux échecs grâce à toi.
un peu par hasard, parce que j'ai fait lichess qui s'est trouvé que c'est ça qui avait fonctionné, mais j'aurais peut-être, qui sait, tout aussi bien pu commencer à faire un jeu de Go Et s'il avait été populaire, eh bien aujourd'hui, je jouerais au Go.
Oui, mais il y aurait peut-être moins de peut-être quand même de passionnés de Go que de passionnés d'échecs.
Hein, oui, sans
doute, et notamment en France. Alors, même s'il y en a, bien sûr, et c'est un jeu en développement tout à fait intéressant.
Et il existe un serveur de Go open source. Non, il n'est pas open source, mais il est complètement gratuit. Il est très intéressant. Il s'appelle online-go.com. Et je le recommande. Il a à peu près les mêmes valeurs que l'Ichess. C'est sobre, c'est gratuit, il n'y a pas de publicité, les gens qui font ça sont très bien.
Ouais. Ah ben super, voilà, donc comme ça, en plus on apprend, vous voyez, sur Fréquence Diagonale, y compris des sites de jeux, de jeux cousins ou de jeux frères, hein, parce qu'en général les joueurs d'échecs aiment bien jouer aux autres jeux aussi, hein, de toute façon. Même si, comme disait le grand maître Éloi Rolange sur Diagonale TV, il nous disait que le jeu d'échecs, c'est quand même, malgré tout, la Formule 1 des jeux. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc, informaticien, et alors, depuis quand tu as commencé petit à programmer? Comment ça s'est passé?
J'ai commencé au collège. Les cours de mathématiques du collège exigeaient qu'on ait une calculatrice scientifique programmable avec un écran. À partir du moment où j'ai eu ça dans les mains, je n'ai fait quasiment plus que programmer, au détriment, bien sûr, de tous les cours auxquels j'étais censé assister. J'ai programmé des jeux sur cette calculatrice et j'en ai une autre et j'ai programmé plus de jeux. Ensuite, j'ai commencé à coder sur ordinateur, forcément, à construire des sites pour des amis, une espèce de mini Facebook pour des amis. J'ai suivi un IUT informatique dont j'ai pas vraiment apprécié le contenu des cours. J'ai toujours été plutôt autodidacte et j'aime apprendre par moi-même.
Ouais.
Et j'ai construit beaucoup, beaucoup de programmes dans divers langages, des programmes pour faire diverses choses, pour des architectes, pour des jeux, pour des sites, pour gratuitement, pour de l'argent, un peu de tout. Excusez-moi. Et voilà, aujourd'hui, je travaille pour Prismic.io, une start-up française, parisienne, dont l'objectif est de remplacer complètement le vieux monde des CMS en fournissant une solution de CMS qui n'impose pas aux développeurs les langages et les technologies qu'ils doivent utiliser.
Alors, il faut expliquer pour nos auditeurs, c'est quoi un CMS exactement ?
Un CMS, c'est un acronyme anglais pour Content Management System. C'est ce qui va permettre à quelqu'un de publier du contenu en ligne et d'avoir une interface agréable et sympathique pour celui qui va créer du contenu, pour créer, justement, modifier, versionner, mettre à jour et publier ce contenu sur Internet.
Voilà, bon, exemple de CMS connu, WordPress par exemple, voilà.
Tout à fait, ou Drupal, voilà. Et trois grands CMS qui ont le point commun d'obliger les développeurs à développer dans la technologie Joomla, Drupal ou WordPress.
Oui.
C'est-à-dire en l'occurrence en PHP et avec des langages de template qui sont à mon avis terrifiques.
Ah oui.
La différence de Prismic.io, c'est qu'on va fournir les mêmes services, sauf qu'on n'oblige pas les développeurs à utiliser du PHP. On peut construire des sites absolument dans n'importe quel langage et utiliser Prismic pour la partie contenu.
D'accord. Donc il voilà. y a comme ça une séparation des sujets.
Voilà. De même qu'il y a une séparation dans ma vie, je travaille professionnellement pour Prismic.io et dans ma vie personnelle, en tant que hobby, je travaille sur l'Ichess.org. C'est deux choses qui n'ont rien à voir.
Alors c'est un hobby qui ressemble quand même à une activité presque professionnelle, tellement la qualité est là. Hein. Donc évidemment, les auditeurs vont découvrir l'Ichess pour ceux qui ne connaissent pas. Et ils vont remarquer à quel point ce site a un potentiel à la fois graphique, ergonomique, hein, qui, on le voit, rivalise, et pour ne pas dire dépasse, les meilleurs sites de jeux d'échecs actuels. Alors, tu disais actuellement en troisième mondial. Hein.
Deuxième mondial.
Deuxième mondial. Donc, on va parler un peu plus... Deuxième, déjà. Donc, on va parler un peu plus de...
Deuxième, d'après Alexa, qui est la mesure de référence pour les mesures d'audience des sites Internet. Oui.
D'accord. Donc, on va rentrer un peu plus maintenant dans l'ICS. Alors, d'abord, on va commencer par l'aspect fonctionnel, avant notre première pause musicale. Et puis après, on attaquera plus sur l'aspect, je dirais, informatique, philosophique et aussi historique du site. Alors, sur l'aspect fonctionnel qui intéresse le joueur d'échecs, on arrive sur l'ICS, comment ça se présente? Est-ce qu'il faut télécharger un logiciel pour pouvoir, par exemple, comme sur ChessBase, par exemple, il faut télécharger ChessBase, le logiciel, pour pouvoir se connecter au site. Quoique maintenant, je crois qu'il y a une interface web aussi. Mais, ou alors, sur FreeChess, on va télécharger un logiciel comme eBoard ou Winboard pour jouer. Comment ça fonctionne?
Oui, non, pas du tout. L'eChess, c'est un site internet. C'est ni plus ni moins qu'un site internet. L'idée, c'est qu'on tape l'eChess.org dans son navigateur, on arrive sur la page. Là, c'est très clair, c'est très simple, c'est très épuré. Il y a trois gros boutons sur la droite qui sont créer une partie, jouer avec un ami ou jouer avec l'ordinateur. L'idée de l'e-chess, c'est une idée qui est là depuis le début, c'est qu'en deux clics, on puisse être dans une partie. Que ce soit contre un anonyme sur Internet, créer une partie, que ce soit contre un ami à soi qui est à distance ou à proximité, ou que ce soit contre une intelligence artificielle seulement pour s'entraîner. Et en deux clics, sur l'e-chess, on a cette partie, on n'a pas besoin de s'inscrire, on n'a pas besoin de télécharger de logiciel, et naturellement, on n'a pas besoin de regarder des publicités.
Ouais, oui, ça c'est important. Donc effectivement, on arrive sur une simple page en fait navigateur, une simple page HTML a priori.
Tout à fait.
On se méfie de rien et ça marche tout de suite. Donc ça c'est tout à fait exceptionnel. Ça marche vite et puis en plus ça marche vite. Voilà, ça marche tout de suite et ça marche vite. C'est
ouais.
Extrêmement rapide.
Hein, oui, je fais très attention à la performance.
Ouais, c'est tout à fait surprenant. Et alors, y a combien de joueurs qui jouent sur l'e-chess et combien de parties jouées aujourd'hui?
Le nombre de parties jouées, je pense, est une assez bonne métrique. En ce moment, on a 180 000 parties qui sont terminées par jour.
180 000 parties par jour.
Donc vraiment des parties qui sont terminées. C'est pas des parties qui sont commencées et ensuite il y en a une sur deux qui va peut-être être abandonnée. C'est vraiment des parties qui sont terminées par un échec à mat ou un accord de nul. 180 000 parties par jour, à comparer par exemple avec Fix. Free Internet Chess Server qui a 40 000 parties par jour terminées, ICC qui a à peu près le même chiffre, et GameKnut je crois a dans les 60-70 000 parties terminées par jour, on en fait 180 000.
Voilà. Et il y en a un qui passe devant, c'est qui le numéro 1?
Le numéro 1 c'est chess.com.
Et ouais, ils sont devant.
Ils sont indétrônables pour l'instant. J'ai pas le nombre de parties qui jouent par jour.
Ouais, mais pas pour longtemps,
mais
parce que tu m'as dit que
je sais qu'ils sont loin encore.
Tu m'as dit que tu veux les rendre inutiles.
On vise la première place, naturellement.
Donc oui, donc c'est un gros chiffre, vous imaginez, 180 000. Alors évidemment, on a des joueurs du monde entier, hein, c'est pas réservé à la France, c'est ça qui justement... D'ailleurs, même au départ, moi je crois que c'était un site développé...
Oui, c'est ce qu'a fait la force de l'e-chess.
Depuis les États-Unis, mais pas du tout.
Depuis très longtemps, parce que depuis le début, on a fait très attention à ce que l'e-chess soit disponible dans tous les pays, et traduit dans le plus de langages possible. On a une équipe de traducteurs qui travaille à rendre l'e-chess disponible dans plus de 80 langages.
Ouais, c'est fou ça. Donc ça, c'est il y a eu des contributions bénévoles pour faire ces traductions.
Absolument, oui. Des centaines de personnes ont contribué et contribuent à l'élaboration de ces traductions. Oui.
Voilà, du fait qu'ils ont pu venir sur le site, jouer, après ils ont voulu le traduire dans leur langue assez vite, quoi.
C'est comme ça qu'on fonctionne beaucoup sur l'e-chess, oui. Au lieu de considérer nos utilisateurs, si tu veux, comme des cartes de crédit, d'essayer d'obtenir d'eux uniquement de l'argent, qui va nous permettre ensuite de payer des gens pour développer et améliorer le site, nous, on a pris l'approche absolument inverse de considérer les gens qui utilisent des sites comme des contributeurs. On va jamais leur demander de payer quoi que ce soit, on va pas vendre leurs informations, on va pas leur faire regarder de la publicité. Et les gens s'en aperçoivent, les gens sont pas cons, ils s'aperçoivent très bien qu'on les respecte et que c'est quelque chose qui est construit ensemble. Et ils se présentent spontanément pour faire ce qu'ils savent faire de mieux.
Ouais, tout à fait.
Et pour certaines personnes, c'est les traductions. Et ça fonctionne à merveille.
Ouais. À noter, hein, on y reviendra après dans la partie philosophique. Bien entendu, tu l'as dit déjà au début, c'est que tu es tout à fait intéressé et passionné par la notion d'open source. Et justement, c'est ce qui va faire une des caractéristiques du site, c'est qu'il est bien entendu ensuite sous open source. Quand on contribue, eh bien finalement, on contribue un code qui, de toute façon, au départ, est déjà public. Voilà.
Donc, oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose... code ou des traductions ou du contenu, tout ce qu'on veut. Ouais.
Ou des graphiques, enfin, ce genre de choses.
Dans tous les cas, oui, effectivement, c'est sous licence open source.
Alors, on y reviendra sur ce point parce que c'est un des points importants. Donc voilà un chiffre important, 180 000 parties finies par jour, c'est énorme. Alors, sur le type de jeu, moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dès qu'on arrive, et je pense que ça c'est aussi un atout quand on arrive, qu'on a un peu l'habitude de jouer sur les sites de jeu, tu as choisi de mettre l'interface la plus, je dirais, la plus pratique, la plus killer application qu'on puisse trouver, évidemment, c'est le fameux graphe de challenge. C'est-à-dire qu'on arrive et tout de suite, on peut voir les petits ronds par durée de temps en abscisse et puis par classement elo en ordonnée. On sait, voilà, tel joueur, donc en gros, on sait que ce joueur-là, qui voit à peu près 1800 elo, nous propose un blitz de 3 minutes chacun, et ça se voit au premier coup d'œil grâce à ce graphe. Donc on arrive tout de suite, on peut cliquer sur un rond et démarrer une partie.
Voilà, oui, il y a plusieurs manières de rejoindre une partie sur l'e-chess. En effet, il y a soit le graphe qui permet visuellement de repérer exactement les parties qu'on veut, on peut avoir exactement la même information affichée sous une forme de tableau, et puis, moi, la manière que je préfère vraiment pour rejoindre une partie, c'est tout simplement de créer une partie et d'ajouter moi aussi mon entrée dans ce graphe ou ce tableau, sachant que Lichess va automatiquement mettre en correspondance deux personnes qui ont créé des parties à peu près similaires.
Ouais.
Donc à mon avis, c'est la raison la plus simple, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de parties qui sont créées, beaucoup qui disparaissent. Ça devient en fait assez difficile de choisir soi-même la partie qu'on veut jouer et laisser Lichess faire le travail de matcher les joueurs ensemble. À mon avis, c'est le mieux. Ouais.
Alors ce graphe de challenge, ce challenge graph là, qui est très important, qui était une invention au départ d'ailleurs de Fix, hein, de Free Internet Chess Server, mm-hmm. Je crois que c'est les premiers qui l'avaient mis.
Pionniers, ouais.
Ben, c'est les pionniers à avoir inventé ce principe là. Moi, c'est le mode que je préfère et que je cherche toujours sur un site. Quand il n'y a pas ça, en général, je m'en vais. Parce que c'est quand même pratique. Et alors, on peut, donc, quand on challenge aussi, on peut choisir, bien sûr, eh bien, par défaut, la durée de partie qu'on va vouloir jouer, donc par exemple 3 minutes. Et puis après, quand on relance une partie, ça sera toujours 3 minutes, où on peut toujours modifier, mais enfin, on peut choisir sa cadence préférée. Et on peut choisir si on joue blanc, noir ou aléatoire, bien sûr. Et puis, on a aussi les bornes de classement Elo. Par exemple, on accepte de jouer contre les 1500 à 2500.
Tout à fait, oui.
Il n'y a pas encore les bornes relatives. Bon, ça viendra. La borne relative, c'est de dire, voilà, mon classement, il évolue. Parce que je n'ai pas toujours, 1500 Elo.
Oui, des c'est de moins 200 à plus 300.
Voilà.
Les bornes relatives sont déjà disponibles sur l'appli mobile. Elles sont disponibles sur le site aussi très rapidement, c'est très facile à faire.
Oh, très chouette.
Ce que je peux faire peut-être même ce soir.
Donc ça, c'était un point évidemment important pour faire des blitz. Alors ça, c'est les blitz seuls. Alors on reste dans les fonctionnalités, on reste sur le jeu d'échecs. Après, on va parler d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça. Vous allez voir, c'est extraordinaire, c'est une richesse.
Je peux peut-être passer assez rapidement sur les plus grosses fonctionnalités.
Oui, je voulais parler du tournoi un peu, le tournoi Arena. Alors ça, c'est une nouveauté par contre. On le retrouve pas ailleurs, moi je ne l'ai jamais vu ailleurs.
Oui, le tournoi Arena, j'ai pris l'inspiration de Chess Cube, des tournois de Chess Cube, qui en fait, il me semble, utilisent déjà le même principe de tournoi. C'est des tournois où on n'attend pas que tout le monde ait terminé son match pour commencer le match suivant. C'est des tournois qui sont optimisés pour réduire le temps d'attente des joueurs sur Internet.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, donc on est par exemple 100 joueurs, on fait un blitz, 3 minutes par exemple chacun, mm-hmm. Ça dépend le format du tournoi bien sûr. On joue sa partie, puis quand on a fini, donc je le dis parce que les joueurs d'échecs, on n'est pas habitué à ça. Puis bon, ça pose des problèmes, mais on va en parler juste un peu. Mais en gros, donc on finit sa partie, et en fait, on n'attend pas que les autres parties soient finies, comme on fait dans un tournoi classique. S'il y a d'autres parties finies, ils regardent si on nous a parié, tout de suite on redémarre. Donc du coup, il peut y avoir à la fin du tournoi quelqu'un qui a joué deux fois plus de parties qu'un autre.
Absolument.
Et même absolument. Ça
et c'est le but. Il faut jouer très rapidement.
Ouais,
c'est les tournois qui encouragent à jouer rapidement pour jouer plus de parties.
Voilà, mais du coup, ça fausse un peu les parties parce qu'on peut vouloir la finir vite pour jouer plus de parties. On peut vouloir tricher. Bon, bref, c'est un peu particulier, mais c'est amusant. Je dois reconnaître quand même. C'est pas inintéressant. Bon, c'est le mode de tournoi par défaut, où là on voit par contre que le développeur n'est pas un joueur d'échecs, disons, de tradition.
Non, en effet.
Voilà,
les échecs de tradition se heurtent parfois à la génération Internet et au fonctionnement des choses et des gens sur Internet, où on a besoin que les choses soient instantanées et où les gens ne supportent pas d'attendre sur Internet.
Ouais.
On prend ces facteurs-là en compte et ça fonctionne très bien, effectivement.
Ouais,
ça
ouais.
Remplace en aucun cas des tournois suisses. Mais les tournois Arena ont beaucoup de succès sur les chess. Grâce aussi à deux petites fonctionnalités supplémentaires qui leur ajoutent un peu de piquant, qui sont la win streak, c'est-à-dire le nombre de parties qu'on gagne d'affilée. Plus on va gagner des parties d'affilée dans ces tournois-là, et plus on va gagner de points par partie. Donc ça évite le phénomène qui ferait que des gens pourraient perdre des parties rapidement quand ils pensent qu'ils vont perdre, pour pouvoir en jouer ensuite d'autres. Avec ce système-là, on est obligé d'essayer d'en gagner plusieurs d'affilée si on veut vraiment gagner le tournoi.
Oui.
Et on a aussi un bouton un peu spécial qui s'appelle le Berserk, qui fait que quand on clique ce bouton-là en début d'une partie d'un tournoi, on perd instantanément la moitié de son temps sur son horloge, mais on peut gagner un point en plus si on remporte la partie. Et sur les tournois qui sont très prisés, dans lesquels il y a beaucoup de personnes, les gens savent que s'ils veulent arracher la première position, ils vont devoir faire ça.
Oui, donc c'est bon, voilà, donc c'est intéressant.
C'est pour le fun.
Mais à ne pas mettre entre toutes les mains, quand même, c'est un peu
ouais.
C'est parfois un peu frustrant aussi. Bon, c'est
autre chose,
c'est un format de tournoi original qui mélange une part de hasard avec la qualité du jeu, donc c'est pas inintéressant, il faut y jouer. Bon voilà et bon alors après le tournoi suisse je sais que ça a été déjà développé un peu, c'est déjà un peu en place, bon mais c'est pas encore tout à fait opérationnel, mais Lichess est en développement permanent, hein, c'est ça, hein.
Tout à fait, on a beaucoup d'autres fonctionnalités déjà on a des parties en correspondance, on est capable de jouer en correspondance beaucoup de parties à la fois. On a toute une section d'entraînement avec des puzzles tactiques, de
Ouais, ça
l'entraînement
c'est
sur
très
les
très bien
ouvertures.
ça. Moi j'ai testé ça. On peut s'entraîner avec une série de problèmes d'ailleurs qui ont l'air de plus en plus compliqués d'ailleurs, j'ai
Il
l'impression.
s'adapte à ton niveau en
Ils
fait.
s'adaptent au niveau et on les résout petit à petit et on a même un classement Elo estimé en fonction de son.
Tout à fait. Chaque problème a un classement, Glico, qui commence à 1500, comme tous les joueurs, et qui va évoluer en fait. Quand un problème est joué pour la première fois, son classement va évoluer en fonction de si la personne a réussi à le résoudre ou pas, etc. etc. Et au fur et à mesure, on est capable du coup de proposer les bons problèmes aux bons joueurs, parce que
Ouais,
les
je
joueurs ont
comprends.
un classement spécial tactique qui évolue aussi au fur et à
Alors ça,
mesure.
c'est vraiment une fonctionnalité super pour s'entraîner. J'avoue y avoir participé plusieurs fois et à chaque fois, c'est très très prenant. La série des problèmes est vraiment plus on en gagne, plus c'est difficile et donc c'est vraiment intéressant. On a vraiment le sentiment de progresser et de s'entraîner tactiquement parce qu'à chaque fois, il faut trouver des combinaisons pas simples d'ailleurs. Il y a plus de parfois 5, 6, 7, 8 coups de suite à trouver.
Ça
Et
dépend
mais
du niveau. Il y
ouais.
a un détail amusant sur ces puzzles d'échecs, c'est qu'ils sont générés à partir des parties qui sont jouées sur l'e-chess. On a créé des algorithmes qui vont aller chercher dans la base de données des parties sur l'e-chess qui sont intéressantes et où quelqu'un a joué une erreur qui fait que derrière, il y a un enchaînement de coups unique qui va permettre d'obtenir un avantage soit positionnel, soit directement un échec et mat.
Oui, parce que alors ce qu'il faut dire là, tu rejoins une des fonctionnalités de l'e-chess aussi qui est tout à fait là aussi pour moi nouvelle. Alors peut-être ça a été mis en place sur les autres sites, je sais pas, mais il est intégré dans l'e-chess par défaut un arbitre électronique, hein, je crois que c'est Stockfish qui est utilisé, et qui est capable à la fois un d'analyser les parties qui se jouent et de repérer les tricheurs,
Tout à fait.
deux de pouvoir analyser ses propres parties après qu'elles étaient jouées, mais non pas pendant.
Naturellement.
Mais du coup, on peut demander l'analyse. Et alors, vous avez Stockfish qui va ramer, qui va travailler pendant le temps qu'il faut. Alors, c'est assez rapide, hein, ça peut durer 30 secondes, c'est assez rapide. Mais qui va vous sortir une analyse et qui va vous dire ça, c'est vraiment un très mauvais coup parce qu'il fallait jouer ça. Et puis, qui vous explique à chaque fois qu'il y a une erreur. Il vous donne en plus le nom des variantes que vous avez jouées. En fait, c'est vraiment génial pour être sûr, après une partie, qu'on n'a pas raté un truc. Il n'y a pas besoin d'exporter votre partie pour l'avoir sur l'ordinateur chez vous. Vous pouvez le faire directement sur le site et c'est quand même extrêmement pratique. À
Oui.
noter qu'on peut aussi exporter toutes ces parties. Hein,
Oui,
sur...
naturellement, les parties d'un joueur appartiennent au joueur.
Ouais.
Elles sont donc toutes exportables au format PGN,
Ouais.
avec les analyses incluses dedans en commentaire pour les parties qui ont été analysées.
On peut les exporter toutes d'un coup. On n'est pas obligé de le faire une par une.
Absolument.
Ouais.
Depuis le profil d'un joueur, on peut exporter un fichier énorme PGN qui contient toutes les parties.
Voilà.
Et oui, cette analyse automatique, c'est une des fonctionnalités dont on est assez fier. C'est une des fonctionnalités que typiquement des sites vont proposer. Contre un abonnement premium. C'est-à-dire qu'ils vont demander à leurs utilisateurs de payer pour accéder à l'analyse automatique. Nous, pas du tout. Cette fonctionnalité-là, comme toutes les autres, est entièrement gratuite. Elle est disponible pour tout le monde immédiatement, y compris pour les anonymes. Et c'est quelque chose qui est possible parce qu'on a tout un réseau de serveurs, de machines qui font fonctionner Stockfish et qui sont offertes par des gens à l'eChess pour pouvoir fournir ces analyses
Voilà, c'est la
automatiques.
contribution, encore une fois, de
Voilà.
la communauté des passionnés qui apporte sa dot, chacun apporte ce qu'il peut, et à la fin, ça
Exactement.
marche très bien.
Et comme on a énormément de serveurs, les analyses sont très très rapides et de très bonne qualité.
Oui, enfin, moi, je peux le confirmer, effectivement, c'est tout à fait intéressant. Alors, il y a un autre thème, il y a beaucoup d'autres thèmes qu'on va voir, hein, parce que. Mais il y a un autre thème, c'est qu'il y a d'autres variantes de jeux d'échecs, mais on va arriver ici à la fin de cette première partie. On va faire trois parties dans cette émission parce que ça va être très riche. Donc on fait une première pause avec toi Thibaut. On va écouter, tu sais que sur Fréquence Diagonale, on a un peu de musique.
Et de la bonne.
Et de la bonne musique. C'est de la musique notamment qui est sous licence
Libre,
libre, voilà,
j'espère
bien
bien.
évidemment. Et donc je vous laisse avec ce petit morceau. Et de musique libre. Et puis on se retrouve bien entendu juste après pour continuer avec Thibaut sur les fonctionnalités d'eChess. Et puis on verra aussi dans deux autres parties, on verra eh bien, la philosophie hein, qu'il y a derrière l'eChess. On en a parlé déjà beaucoup. Hein. On a parlé d'open source, mais on va creuser tout ça. Et ensuite, on parlera aussi de l'historique de ce site et l'historique et puis l'avenir. Parce qu'évidemment, si on parle d'histoire. On a parlé du présent, mais il faut aussi parler du passé, c'est bien. Et pour se projeter dans l'avenir, pour voir tout ce qui va être mis en place sur Lichess, et puis comment on peut aussi rejoindre la communauté des développeurs, parce qu'il y a moyen, bien sûr, de contribuer soi-même.
Même sans être développeur, d'ailleurs.
Même sans être développeur, il y a beaucoup de... Et on parlera de ces opportunités-là. Donc, tout de suite, petite pause musicale, on se retrouve juste après. Thank you. De retour sur Fréquence Diagonale, toujours avec Thibaut pour parler de Lichess, lichess.org. Donc on a commencé à parler des fonctionnalités dans la première partie, alors on continue, puisque une autre des fonctionnalités, c'est pas la moindre, hein, c'est qu'on retrouve sur Lichess, ce qu'on avait aussi sur Fix au départ, et qui a été amélioré, mais alors sur Lichess, ça est porté au summum, hein, on a une variante aussi, enfin des variantes, toutes les variantes presque, j'ai envie de dire, du jeu d'échecs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer au random chess, le fameux fichier aléatoire, là, on met les pièces au hasard. On a King of the Hill, on a l'Atomic, ça doit exister aussi.
Atomic Chess, oui.
Voilà, le Loser aussi, c'est-à-dire que c'est celui qui donne toutes les pièces qui gagne.
Absolument, ouais, on appelle ça anti-chess. Ouais. On a aussi Street Check, où le but est de mettre en échec l'adversaire trois fois. Et récemment, le mois dernier, quelqu'un a implémenté Horde Chess, qui est une variante d'échecs assez, assez exotique, puisque les Noirs n'ont que des pions. Mais ils ont beaucoup de pions. Les Noirs ont 32 plus 4, 36 pions contre une armée des Blancs qui, elle, est une armée traditionnelle des échecs.
Avec pions et pièces.
Absolument.
D'accord.
Donc l'objectif pour les Noirs est de mettre le roi blanc mat, et l'objectif pour les Blancs, c'est de prendre tous les pions noirs de la Horde.
Ça suffit de prendre les pions noirs ou... Ouais, bon, mais mat forcément, du coup, si on...
Ben oui, parce que les noirs n'ont pas droit.
Ouais. Ah, il n'y a pas droit.
Non, les noirs n'ont pas droit, non, vraiment, que des pions. C'est, c'est la horde.
Ah oui, oui, d'accord.
C'est
le
rush des Zergling.
Oh, je vais jouer à ça.
Oui, c'est très amusant. C'est pas une variante qui est balancée, c'est-à-dire que jouer les blancs ou les noirs, c'est deux expériences qui sont très différentes.
Ouais.
Et pourtant, c'est vraiment des échecs. Alors que Atomic Chess, par exemple, où les pièces explosent quand elles capturent, ça... C'est vraiment très très différent des échecs comme jeu. Anti-chess, loser's chess, c'est aussi extrêmement différent. On ne peut pas utiliser notre intuition des échecs pour jouer à anti-chess ou à atomic. Par contre, à horde chess, aussi bizarre que ça puisse paraître, on peut utiliser son intuition de joueur d'échecs normal et on peut jouer normalement et les vraies règles d'échecs s'appliquent et on a vraiment l'impression de jouer aux échecs en fait.
Ouais, ça doit être quand même assez spécial. Parce
c'est très spécial. Ouais. Et toutes ces variantes-là sont vraiment bien intégrées, elles sont toutes first class sur le site, comme j'aime le dire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les jouer en blitz, en temps réel, on va pouvoir les jouer en correspondance, on va pouvoir les analyser, on va pouvoir les jouer en tournoi. Pour chacune de ces variantes-là, on va avoir un classement distinct aussi, qui ne va pas se mélanger avec les autres classements, naturellement.
Ouais, d'accord. Oui, donc
les échecs normaux sont vraiment qu'une des variantes en fait, qu'on peut jouer sur les chess, et elles sont toutes considérées avec un pied d'égalité.
Voilà. Et alors, sur le graphe de challenge, du coup, ça apparaît avec des symboles différents, c'est ça?
Oui, voilà. Ben,
c'est des ronds de couleurs ou des choses comme ça.
Sachant qu'on peut filtrer ce qu'on voit, si décidément on n'aime pas du tout Atomic Chess,
oui.
On peut filtrer et puis dire qu'on ne veut jamais voir ces parties.
Bien sûr, on peut choisir de jouer que standard. Hein,
bien sûr.
Et puis, du coup, on ne les voit jamais, les variantes. Hein, c'est vraiment pour les fanas. Mais en général, les débutants aux échecs voient le jeu d'échecs comme un jeu comme un autre, et au final, ils aiment bien aussi jouer toutes les variantes. Et le jeu d'échecs n'attire dans sa profondeur que plus tard.
Donc certains joueurs, même des très bons joueurs, qui ne jouent qu'à une variante, ils ne jouent même plus du tout aux échecs normaux. On a des spécialistes d'Atomic Chess,
ouais,
par exemple,
ouais.
qui sont même en train d'écrire un livre en ce moment sur Atomic Chess, en utilisant Lichess pour faire leurs analyses et leurs parties.
Ah oui.
Pour, voilà.
D'accord. Et il y a des tournois aussi, pareil?
Tout à fait. Il y a des tournois spécifiques pour chaque variante.
Ouais. Voilà. Arena toujours, ou il y a aussi le Suisse qui...
Arena et Suisse. On peut faire un tournoi Suisse de Horde, si on veut.
Voilà. D'accord. Alors, à noter, d'ailleurs, par rapport à ces tournois, puisqu'on en reparle, donc que le tournoi Suisse est implémenté en pratique, mais que... Il est encore, disons, en mode, disons, un peu secondaire, je dirais, encore en test. Il n'est pas aussi visible que l'Arena, qui est en plus des tournois, je dirais, lancés automatiquement par le serveur. Mmh. Et puis, on n'a pas les grilles américaines. Bon, je t'en ai déjà parlé, je ne vais pas rentrer dans trop les détails. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'évidemment, tout ça est toujours en développement. C'est jamais fini.
Tout à fait.
Donc, il ne faut pas jamais voir un serveur de ce type-là, surtout en open source, comme quelque chose de définitif. Il faut le voir comme quelque chose en mouvement. Et mais chacun est là justement pour essayer de contribuer, d'apporter sa pierre pour aller dans la direction qu'il souhaite voir se réaliser prioritairement, éventuellement. Évidemment, ça marche aussi comme ça.
Tout à fait, oui.
Alors donc, tu parlais des variantes. Est-ce qu'il y a d'autres, comme ça, d'autres propriétés du site, d'autres domaines qu'il faudrait présenter aussi en termes fonctionnels?
En termes fonctionnels, on a toute une série d'utilitaires que les joueurs d'échecs s'attendent à trouver en ligne aujourd'hui, comme par exemple un éditeur de partie où on va pouvoir positionner des pièces de manière arbitraire pour créer une position. Ce qui est intéressant, c'est que sur Lichess, cette position, on peut ensuite décider de la jouer soit contre un ordinateur ou soit contre une vraie personne.
Donc, c'est une variante de jeu, ça?
Et bah, du coup, c'est une variante qui s'appelle Depuis une position.
D'accord.
Et ça permet de démarrer depuis absolument n'importe quelle position. Alors, ça peut être par exemple une ouverture, là, on peut démarrer depuis la rue Lopez pour travailler cette ouverture, ou alors ça peut être, on peut s'en servir pour faire des handicaps, par exemple. On peut tout simplement retirer la dame noire et puis jouer contre quelqu'un qui est beaucoup plus fort avec un handicap de dame, par exemple.
Comme au XVIIIe siècle, où ils jouaient beaucoup au handicap.
Ça se faisait, ouais.
Ouais, ils adoraient ça. Ça se fait plus aujourd'hui dans les tournois, en tout cas. Mais ça peut se faire donc, sur l'e-chess. Oui, c'est intéressant, ça, comme fonctionnalité. Mais du coup, il y a un classement Elo là-dessus
Non. Non, parce que c'est pas de classer les gens, c'est que des parties occasionnelles, amicales.
Mais donc on peut tester aussi les fameuses positions d'études, ce genre de trucs.
Absolument.
À deux, quoi.
Absolument. C'est... Et contre un ordinateur, on peut mettre en place une position et se demander si oui ou non, en fait, c'est gagnable ou pas. Et dans ce cas-là, la réponse est très simple à avoir. Il suffit de démarrer la partie contre le niveau le plus élevé de l'ordinateur. Et là, on a la réponse. Hein, on sait ce qui se passe.
Ouais. Mais encore ça, on peut le faire. Ça encore, on peut le faire chez soi avec l'ordinateur, sur son PC. Bien sûr. Bon, faire sur l'e-chess, c'est encore autre chose.
On a aussi un plateau d'analyse qui va permettre de faire des déplacements et de créer plusieurs variations, de faire tout un arbre de déplacements d'échecs pour explorer une position.
Oui, d'accord.
On va avoir une fonctionnalité aussi d'import où si on a un fichier PGN, on peut rentrer le fichier PGN dans l'e-chess. Il va être importé. On va obtenir une partie sur laquelle on peut faire un replay, sur laquelle on peut essayer d'autres variations, où on peut discuter avec des gens si on les invite sur la même URL, et sur laquelle on peut avoir aussi une analyse de l'ordinateur automatique.
Voilà, donc vous voyez, c'est extrêmement riche. Et bien sûr, il y a aussi... un forum et on peut chatter pendant les parties, je crois bien. Il y a un chat sur le côté.
Tout à fait, on peut discuter pendant les parties, pendant les tournois. Il y a des forums, il y a un système d'équipe, il y a toute une partie des.
Ah oui, on peut aussi jouer en équipe, ouais. J'ai vu ça, oui. Donc il y a une équipe, ce qui fait qu'on peut cumuler des points aussi, il y a quelque chose à gagner ou...
Non, pas vraiment. Les équipes, pour l'instant, ça va vraiment à regrouper des gens et à leur fournir des forums pour parler de sujets spécifiques ou alors dans un langage spécifique. Les forums généraux de l'e-chess, on essaye de les garder en anglais principalement. Mais voilà, par exemple, on a une équipe qui est très populaire, l'équipe iranienne, où les gens vont pouvoir parler dedans.
D'accord, mais on pourrait aussi envisager, bon, mais pour plus tard, hein, pas pour tout de suite, mais des compétitions par équipe. C'est très
aussi. On nous le demande régulièrement, donc ça va arriver.
Des matchs contre 4 contre 4 ou 2 contre 2. Bon, d'ailleurs, ou le fameux blitz à 4, pourquoi pas. Enfin, on peut imaginer plein de choses.
On peut tout imaginer.
Ce qui est beau, c'est ça, c'est qu'on peut participer. Donc, bon, après, si on est informaticien, ça sera quand même plus efficace que si on ne l'est pas, bien sûr. Mais on peut aussi participer de façon non informatique. Alors, pour continuer maintenant. Notre exploration de l'e-chess, je crois qu'on a vu en gros les fonctionnalités générales et en même temps en précisant que c'était en développement, donc il y en a d'autres qui vont arriver plus ou moins rapidement en fonction du nombre d'informaticiens qui travaillent dessus et de contributeurs aussi de façon générale. Mais on va venir maintenant sur une partie non moins intéressante qui est plutôt, je dirais, le back-office en quelque sorte de l'e-chess, c'est sa philosophie et puis la philosophie qui sous-tend aussi donc l'informatique, parce que l'informatique c'est pas que des lignes de code, il y a aussi de la philosophie derrière.
Tout à fait, il y a une manière de faire les choses et c'est ces décisions que j'ai pris vraiment très tôt qui font que l'e-chess est devenu ce que c'est aujourd'hui. L'e-chess, que c'est, j'aurais jamais pu faire l'e-chess.org tout seul, c'est évident, je serais même pas arrivé à un dixième de là où on est aujourd'hui tout seul. Et pourtant, j'ai pas payé une seule personne, j'ai pas levé un centime, on ne doit rien à personne. L'idée de l'e-chess, à la base, c'était que... moi, j'aime beaucoup Internet. Je pense qu'Internet, c'est quelque chose de vraiment formidable. C'est comme un continent vierge sur lequel on envoie des premiers explorateurs et puis dont on va faire la colonisation. Ça va être exactement ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, Internet, ce qu'on en fait, c'est un espace qui est commercial, à outrance, à mon avis.
Alors, ça dépend de qui est on, parce que ça dépend...
Voilà, justement. Et c'est à nous, si on veut en faire autre chose, d'en faire autre chose.
Voilà.
Et mon idée avec l'e-chess, c'était de démontrer que oui, sur Internet, on peut fournir un service de qualité, qui soit gratuit pour tout le monde, et surtout, sans publicité. C'était vraiment le pari, le point que je voulais montrer, et qu'on a montré aujourd'hui, je pense, avec succès. C'est un modèle qui fonctionne vraiment très bien. Le fait que ce soit gratuit pour tout le monde et qu'on respecte vraiment les utilisateurs et leur vie privée fait que les gens vont avoir envie de contribuer, les gens vont avoir envie d'aider spontanément, les gens vont avoir envie de parler de ce site à d'autres personnes, alors qu'on a déployé vraiment aucune stratégie en marketing, bien entendu, on n'a fait aucune publicité, c'est uniquement du bouche à oreille, mais ça fonctionne parce que les gens se rendent compte que c'est un service qui est valable.
Oui, parce que c'est beau, que ça marche bien, et qu'en plus on peut
et puis qu'on
participer.
Se moque pas d'eux.
On peut participer aussi à son élaboration, à sa modification, à son devenir en quelque sorte. Mm-hmm. Alors, et pour ça, là tu viens de parler à philosophie au sens général du terme, mais tu as employé ce qu'on appelle dans le monde logiciel une licence. Il y a une licence qui est accolée au code informatique de l'ITCHESS.
Voilà, tout à fait. Tout le code qui est écrit pour l'ITCHESS est sous la licence MIT.
Alors qu'est-ce que c'est ça, MIT ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
La licence MIT, c'est une licence qui dit que tout ce code qu'on écrit et qui sert à faire fonctionner l'ITCHESS, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le copier, tout le monde peut le réutiliser, c'est-à-dire le modifier, le lancer, en prendre seulement un morceau, tout le monde peut le vendre même, et en gros on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec ce code source de l'ITCHESS. Pour moi la partie la plus intéressante, c'est d'être capable de le lire. Parce que quand on utilise un logiciel qui est open source, et par exemple sous licence MIT, ça veut dire que ce logiciel n'a pas de secret à nous faire. Ce logiciel ne va rien cacher dans son fonctionnement, parce que tout est visible. Et du moment qu'un logiciel est visible et utilisé, il va y avoir beaucoup d'yeux sur ce logiciel. Oui. Et si quelqu'un introduit quelque chose qui serait éthiquement contestable dans ce logiciel, immédiatement ça va se voir, ça va se savoir, il va y avoir des discussions, et soit le logiciel va corriger ce problème-là, qui peut être un problème de confidentialité, de sécurité ou simplement du respect des utilisateurs, soit le logiciel va le corriger, soit il va être ce qu'on appelle forqué. Forqué, c'est quand quelqu'un copie tout le code source d'un programme, et il a le droit de le faire d'après la licence open source, et démarre sa propre version du programme. Et dans ce cas-là, il va pouvoir faire ça, retirer la partie qui était contestable, et puis démarrer de son côté son petit bonhomme de chemin avec une base de code plus saine.
Alors à noter, alors MIT, juste quand même pour dire pour les auditeurs, ça veut dire Massachusetts Institute of Technology, une université américaine en fait, qui a mis au point cette licence, alors qui est un peu différente de la licence libre, je dirais historique, qui est celle qu'a mis au point Richard Stallman dans les années 80 et qui s'appelle la GPL, GNU Public License, qui est à l'origine du fameux le système d'exploitation qui s'appelle GNU Linux et qui est libre aussi. Alors la différence, je crois, c'est que, enfin, la différence fondamentale entre les deux, c'est qu'un logiciel sous licence GNU Public License doit rester sous la licence GNU Public License. Donc si on le modifie, il faut que la modification et le logiciel qu'on fait avec restent libres.
Tout à fait.
Alors que le MIT, avec la licence MIT, c'est pas obligé. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien s'approprier le code, faire des modifications et le garder pour soi.
Absolument. MIT est beaucoup plus permissif. On peut prendre tout le code de l'ITCHESS et le revendre tel quel. Et si quelqu'un veut l'acheter, eh ben, tant mieux, pour celui qui l'a vendu.
GNU Public License aussi. Ça, le fait de vendre, c'est pas interdit.
Oui, mais on peut le vendre à quelqu'un qui va en faire quelque chose de fermé, qui va le relicenser ensuite, voilà. Et qui va le modifier sans
avec
contribuer
avec la licence MIT. Voilà, avec la licence MIT, on pourrait, enfin une entreprise, par exemple, pourrait s'approprier le code, en faire des modifications pour elle et revendre le tout sous format fermé.
Tout
sans forcément publier les modifications qu'elle a faites avec.
Alors évidemment, ce n'est pas l'objectif dans l'ITCHESS que quelqu'un fasse ça. Moi, j'aime la licence MIT parce qu'elle est permissive. Et en tant que développeur professionnel, on doit, pour gagner sa vie, construire des programmes qui souvent ne sont pas open source.
Ouais.
Et pour construire ces programmes, on est bien content d'utiliser et de contribuer à des librairies qui sont open source. Naturellement, ces librairies, quand elles sont licenciées sous GPL et qu'on veut faire des modifications qui sont spécifiques à notre domaine, qui lui est fermé, eh ben on est coincé, on ne peut pas faire ça. Et c'est pour ça qu'on aime bien, en général, les développeurs utiliser des licences MIT, parce qu'on pourrait utiliser du contenu open source dans des contextes qui sont professionnels et, malheureusement, pas toujours open source.
Alors c'est très intéressant cette discussion qu'on a là, parce que je crois qu'on est typique là à la frontière entre les deux mondes, justement, privateur d'un côté, hein, puisque c'est ça, quand on dit logiciel fermé, on dit
c'est
privateur, c'est ce que dit Richard Stallman, privateur de quoi ? Privateur de liberté, au sens où, par exemple, je vous donne un logiciel tel que Windows, pour ne pas parler de lui, c'est qu'il fonctionne très bien, sauf que le code, vous ne savez pas ce qu'il fait vraiment. C'est-à-dire qu'il peut très bien envoyer, il le fait d'ailleurs, il envoie des informations à Microsoft sans vous le dire et vous ne pouvez pas vérifier ce qu'il fait, ou c'est extrêmement difficile.
Et chez Apple, c'est encore pire.
Alors qu'un logiciel GNU Linux, le logiciel, vous pouvez l'avoir en compilé, donc effectivement, mais vous avez le code source, vous pouvez le compiler vous-même, et donc vous pouvez le lire. En tout cas, il y a beaucoup d'yeux, comme tu dis, même si vous ne le lisez pas vous, beaucoup d'yeux peuvent vérifier. ce qu'il fait, et voilà. Et donc ce code, si on le modifie, il reste sous licence libre. Alors comme tu disais, effectivement, c'est en fait la contrainte économique du monde logiciel, je dirais traditionnel, qui ne sait pas trop comment vivre en fait sans finalement faire du privateur, hein, pour faire simple, qui se pose des problèmes à utiliser du libre, parce que s'ils utilisent du libre justement stallmanien, en quelque sorte, GPL, ils ne peuvent pas vraiment se l'approprier, ils doivent publier les modifications qu'ils font avec. Voilà, et donc du coup, voilà, il y a cette espèce de frontière, bon, où là, toi, tu as trouvé une espèce de... Et le MIT peut-être répond à cette contrainte. Maintenant, après, on pourrait réfléchir plus loin et se poser, mais pourquoi la contrainte économique obligerait à cela? Est-ce que, quelque part, il n'y a pas un problème plus profond dans l'économie elle-même? Et on pourrait penser au problème de la monnaie, on pourrait penser à tout un tas de problèmes sur lesquels j'ai réfléchi par d'autres. Mais on ne va pas s'étendre là-dessus.
Certes. Moi, je pense que même si idéalement tout le monde devrait écrire du code open source et aucune entreprise ne devrait dissimuler à ses utilisateurs la manière dont les logiciels qu'ils utilisent sont faits, je continue à penser que MIT est une excellente alternative à GPL. Tout simplement parce que le code que j'écris, je veux que les gens en fassent ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent en faire quelque chose qui n'implique pas qu'ils leur contribuent, eh ben, qu'est-ce que ça me fait? Moi, ça me pose aucun problème. Et ce que j'aime avec cette licence, c'est qu'elle lève vraiment toutes les barrières possibles et imaginables avec le travail qu'on fournit.
C'est-à-dire, tu n'obliges pas à la réciprocité, ni en termes privateurs, ni en termes de libération du code. C'est-à-dire qu'effectivement, toi, tu donnes sans espoir de retour.
Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on donne ce code-là? C'est pas pour que quelqu'un clone Lichess, c'est-à-dire fasse sa propre version de Lichess, et la publie en modifiant juste le nom du site. Ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on veut. Si on distribue tout le code sous licence libre, c'est pour que si quelqu'un par exemple voit les forums de Lichess et dise voilà des forums qui sont simples, qui sont bien faits, je veux avoir les mêmes sur mon site, il peut prendre les forums de Lichess. Si quelqu'un veut la partie questions-réponses, il peut la prendre, la partie message privé, il peut la prendre. Voilà, il y a plein de morceaux qui sont découplés, qui sont réutilisables en dehors de Lichess. Et c'est surtout pour cette raison-là que j'ouvre le code pour que les gens puissent réutiliser ces problèmes que j'ai déjà résolus.
Parce que là, la GPL suffirait.
Ils peuvent les réutiliser dans un contexte où ils ne contribuent pas les modifications qu'ils font. Moi, ça me pose aucun problème.
Voilà. Donc alors, c'est bien cette petite frontière. Bon, effectivement, mais la philosophie de base est la même. Après, il y a une petite différence sur une petite restriction, ou pas, selon qu'on veut garder le code libre ou pas. Bon, mais c'est important d'en parler, je pense, ici, pour qu'on sache, bien sûr, que c'est pas du tout le cas sur tous les sites de jeux d'échecs online, tous les autres en fait. Je crois qu'il n'y en a aucun qui soit sous licence libre. S'il faut parler par exemple, justement, il ne faut pas confondre libre et gratuit. Vous pouvez très bien d'ailleurs avoir un système sous logiciel libre qui serait payant, ça serait possible parce que le service n'est pas le logiciel. Et notamment, et là c'est l'inverse encore, FreeChess lui est gratuit, mais le code n'est pas libre.
Tout à fait.
Voilà, ça veut dire que vous comprenez bien la différence. Et c'est pour ça que je crois que ce sujet de Lichess est vraiment très intéressant, parce que Lichess est un peu un pas plus loin que FreeChess, qui est pourtant un des fondateurs, et dont le succès justement est venu du fait que c'était gratuit. Mais FreeChess, son code de fonctionnement, n'est plus, je crois qu'au début c'était pas clair.
Il y a bien longtemps, il était public, mais il ne l'est plus.
Voilà, il était plus ou moins public au début, mais il ne l'est plus. Je crois même d'ailleurs qu'il a été utilisé pour lancer Internet Chess Club, le ICC. Au départ, c'est justement ce qui n'avait pas plu aux développeurs. Justement, ils ne voulaient pas, eux, que leur code serve à quelque chose qui le devenait plus libre, qui devenait non libre. Et voilà, c'est là que la philosophie n'est pas la même. Et entre la GPL et un autre truc. Mais bon, il n'y avait pas de licence associée à FreeChess. Hein, c'est pour de l'historique. Bon, FreeChess continue à fonctionner, bien sûr, aujourd'hui. Mais son code, vous ne pouvez pas l'installer ailleurs. Voilà, vous n'avez pas le code, donc vous ne pouvez pas récupérer ce code logiciel, le compiler et l'installer ailleurs, bien que le site soit gratuit. Donc gratuit signifie pas libre, et libre signifie pas gratuit non plus. Voilà, vous pouvez avoir des services gratuits qui quelque part sont entre guillemets payants. C'est-à-dire que, enfin, libres mais qui sont payants. Voilà, c'est-à-dire libres et qui sont payants. Alors le problème d'ailleurs historiquement a été difficile à expliquer en anglais, puisqu'en anglais il y a un seul mot pour dire à la fois libre et payant, c'est le fameux mot free. Free veut dire à la fois libre et payant, mais de plus en plus ils utilisent gratis maintenant d'ailleurs. Parce qu'ils se sont rendus compte du problème, je l'ai noté quelques fois. Et Richard Stallman avait donc une phrase pour essayer de faire comprendre aux Anglais ce que lui avait très bien compris.
C'est free beer.
Voilà, free as in free speech, not free as in free beer. Hein, voilà. Donc libre comme un discours libre, liberté de parole, et pas libre comme, et pas gratuit comme une bière gratuite. Voilà. Parce qu'en anglais, c'est le même mot, donc il fallait qu'il exprime un sens justement différent. Et voilà. Et donc, alors, Lichess, lui, le code est disponible. Voilà. Donc, si demain, vous voulez encore, en quelque sorte lancer un Lichess 2
ou construire un serveur de Shogi, par exemple. Voilà, un appel à tous les amateurs de Shogi. Il n'existe pas de bon site de Shogi sur Internet. S'il vous plaît, prenez lichess.org et faites lishogi.org ou n'importe quoi. Prenez tout mon code, réutilisez toutes les fonctionnalités qui sont communes aux échecs et aux Shogi, toutes les fonctionnalités déjà sociales et de communication. Changer les règles du jeu et faites un serveur de Shogi. Moi, j'attends que cette personne l'arrive et le fasse, finalement. On pourrait faire la même avec le Go et avec beaucoup de jeux de plateau, ou pas, d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses à réutiliser.
Et, alors, et s'il le rend non libre, son site, alors ?
Ce serait dommage. Mais c'est possible.
C'est possible, voilà.
Mais j'essaierai de l'en dissuader.
Mais est-ce que tu... Donc, du coup... si tu dis « j'essaierai de l'en dissuader », c'est que tu préférerais quand même qu'il ne le fasse pas non libre.
Bien sûr, comme tous les logiciels, je préfère qu'il soit libre.
Donc, à la limite, la GPL te semblerait peut-être plus adaptée, du coup, dans ce cas-là.
Si je l'avais mis en GPL, on pourrait même pas réutiliser, par exemple, la partie questions et réponses pour faire un site pro. Ce serait dommage. Elle a déjà été faite. Je veux
si,
pas que quelqu'un
la GPL de faire du pro. Simplement, tu dois
ils
publier...
Ils peuvent pas le modifier.
Ah, mais si, ils peuvent, mais ils doivent... S'ils le distribuent uniquement, d'ailleurs.
Bon, moi, je vois ça comme une restriction des libertés. Je sais que c'est fait dans une idée vraiment de liberté de l'utilisateur. En fait, la GPL s'intéresse à la liberté des utilisateurs, ouais. Et la licence MIT s'intéresse à la liberté des développeurs.
Voilà, ouais. Tout à fait. Ah, mais c'est intéressant, tu vois, il y a un sujet là, il y a un sujet qu'il faut réfléchir en profondeur. Alors bon, on va pas non plus le faire là parce que c'est pas le sujet de l'émission de parler trop de ça, mais moi c'est un sujet que j'ai creusé depuis un certain temps et on pourrait y passer du temps pour approfondir tout ça. Mais simplement, je pense que les auditeurs n'ont pas forcément tous, tu vois, réfléchi à ce problème-là ou simplement soit en connaissance du sujet, hein, parce que quand on n'a pas encore réfléchi à l'informatique ou qu'on découvre le sujet... Eh bien, forcément, c'est un sujet un peu profond. Hein. Quelle est la licence, en quelque sorte. Voilà. Donc, voilà, des points intéressants qu'il faut avoir bien compris. Et donc, Lichess est libre et gratuit. FreeChess est non libre. Enfin, oui, c'est ça, non libre, privateur, mais gratuit. Et par exemple, ChessBase est non libre et payant. Voilà. Donc, on peut distinguer comme ça selon les deux sujets. Payant ou pas payant, et libre ou non libre, tout libre ou privateur. Voilà. Donc ça fait 4 dimensions en fait. Voilà. au moins 4.
Si on ajoute les publicités, ça en fait une troisième.
Et oui, les publicités,
si
c'est pas payant.
Il y a des serveurs d'échecs qui vont se prétendre gratuits, mais le prix, on va le payer avec notre cerveau. Du ouais. coup, forcément.
Alors là, on paye le prix au sens où, quelque part, disons, en participant à l'ICS, on y contribue de façon directe ou indirecte. Quand on y joue, on y contribue parce que simplement on le fait vivre en tant que joueur. Mm-hmm. C'est le premier niveau, je dirais, en tant qu'informaticien. Et après, on peut passer à l'étape supérieure en apportant un petit quelque chose. Par exemple, si on est graphiste, on peut faire des graphiques. On en parlera.
Ouais, tout à fait.
On va en parler aussi de ça. Alors. Voilà, philosophie, on a parlé de cette fameuse licence MIT, on a fait la différence avec la GPL, ça je pense que c'est très intéressant, on a vu la différence avec FreeChess et avec d'autres serveurs de jeux d'échecs, donc ça, comme ça vous pouvez vous faire une idée beaucoup plus précise de ce dont il s'agit, et je pense que c'est extrêmement important. Et alors, forcément, alors du coup, il y a aussi une question qui vient tout de suite après ça, enfin il y a même deux questions, j'ai envie de te poser, en restant dans l'informatique, avant qu'on passe... dans une troisième partie, il y a quelque chose aussi extrêmement intéressant, l'historique de Lichess et son avenir aussi, en termes de fonctionnalité, de développement, pourquoi pas. Mais avant, en restant dans l'informatique, il y a deux grosses questions qu'il faut quand même traiter. C'est forcément, un, où sont les serveurs ? C'est quel serveur ? C'est quoi la puissance de ces serveurs ? Ils sont installés où ? Est-ce qu'ils ont une bande passante du genre 15 terabits par seconde ? Voilà, enfin, de quoi s'agit-il ? Et la deuxième que j'ai envie de te poser, forcément aussi, bon, on est informaticien, bon, très bien, la partie visibilité du site, on voit bien qu'à la fin, c'est du HTML qui arrive sur le navigateur, ou il y a du PHP, ou j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il y a, mais bon, certainement, ce qu'il y a sur le serveur, c'est pas tout ça, c'est un certain langage. Alors, comment c'est écrit, quoi, en fait, voilà. Comment, quel est le langage de développement de Lichess ? Voilà, donc deux questions, à la fois matérielles, hein, le serveur, c'est où, ça fonctionne comment, c'est quoi la puissance du truc, et puis langage, ça a été écrit comment, voilà.
Ok, alors, les serveurs. Litchess fonctionne sur un seul serveur, un serveur qui est hébergé chez OVH et qui coûte environ, je crois, 130 euros par mois. Et voilà. Pour 130 euros par mois, on peut héberger le deuxième plus gros site d'échecs du monde. Donc quand quelqu'un vous dit qu'on est bien obligé d'avoir de la publicité ou que ce soit payant pour payer les serveurs, c'est faux. Ouais. On peut héberger le deuxième plus gros site d'échecs du monde avec 130 euros par mois. C'est rien. C'est rien, c'est que dalle. Et c'est largement couvert par des donations. Il y a un système de donations, les gens peuvent donner un petit peu d'argent pour aider à payer les serveurs s'ils veulent, en contrepartie de rien du tout, naturellement, puisque c'est des donations. Et voilà, c'est terminé. Ce serveur-là, il est relativement puissant, il a techniquement rapidement 64 Go de RAM, 4 processeurs, 8 threads, le disque c'est du SSD pour avoir des accès suffisamment rapides pour aller creuser jusqu'au fond de la base de données quand des gens font des requêtes qui ratissent beaucoup de parties. Il a une bande passante de 1 gigabit par seconde, on s'en sert que d'un dixième. Et voilà, Litchess fonctionne sur ce serveur-là à 130 euros par mois, et même si on devait grossir encore de la moitié en plus de ce qu'on est aujourd'hui, eh bien ça suffirait encore.
Oui, alors faut noter d'ailleurs que le jeu d'échecs, les quantités d'informations nécessaires sont extrêmement faibles. Parce qu'envoyer des coups et les recevoir, c'est très très léger.
Par contre, Litchess est très très dynamique et très real-time, temps réel, dans le sens où dès qu'on va avoir une miniature d'échiquier sur le site, et il y en a beaucoup, ils sont toujours en temps réel. Et s'il y a des coups qui se passent, on va les voir toujours en temps réel où qu'on soit sur le site. Donc il y a quand même beaucoup de communications qui se font pour relier les gens entre eux tout le temps. Et ça, mais c'est plus de la complexité en programmation qu'un coût technique finalement. D'accord. Et en maîtrisant bien sa stack, on peut réussir à avoir besoin que de très peu de puissance de serveur en fait pour faire tourner un gros service.
D'accord. Et comment les horloges sont gérées d'ailleurs? Tiens, c'est un problème technique pas évident ça, parce que quand on a Marcel qui joue avec Jacques éloigné, donc c'est le serveur qui sert d'intermédiaire, et les horloges, il vaut mieux qu'elles soient...
Elles sont resynchronisées à chaque coup.
Elles sont resynchronisées.
À chaque coup, le serveur renvoie en même temps que le coup, il va te dire « Jacques a joué D4 », et il va aussi te dire « C'est ce qu'il y a sur l'horloge de Jacques, et c'est ce qu'il y a sur la tienne ». Et le client va réajuster son horloge à chaque coup en fait, qui est envoyé par le serveur.
D'accord, donc le lag est pour celui qui lag, en fait. Hein. C'est lui qui
le lag est compensé par Litchess. Litchess connaît le lag de chacune des personnes.
Il fait
une moyenne du lag, et à chaque coup, le lag est compensé. Ce qui fait qu'on peut jouer du bullet chess, on peut jouer aux échecs avec une minute pour toute la partie, même si on habite à Singapour et qu'on a un lag de 600 millisecondes sur le serveur.
Donc il est partagé toujours entre les deux adversaires, en fait.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que si on a un lag de 600 millisecondes, après que le serveur a reçu le coup, il va ajouter 600 millisecondes à ton horloge.
Voilà, donc je rappelle pour les auditeurs, le lag, c'est simplement le petit temps nécessaire entre le moment où vous cliquez votre coup qui envoie sur le serveur. Bon, mais ça peut prendre du temps, et sur Internet, c'est jamais le même temps, selon votre connexion, selon là où vous êtes, selon tout un tas de paramètres. On appelle ça le lag, voilà.
Si on a une bonne connexion à Internet, le lag à Paris va être de 5 millisecondes, en France, il va monter jusqu'à 20 millisecondes, aux États-Unis, il va monter à l'Est à 80 millisecondes et à l'Ouest à 200 millisecondes, et les plus faibles valeurs sont enregistrées en Australie, où on va monter à 500 millisecondes. Ça, c'est avec une bonne connexion.
Quand même. Ouais.
Une demi-seconde, avec une bonne connexion. Ouais. Si en plus on a une mauvaise connexion, qu'on a un mauvais Wi-Fi ou une connexion satellite, bah, ça peut monter beaucoup plus haut. Mais ça...
Ou si on a gardé un modem 16 kilobits.
Voilà. C'est assez peu conseillé pour le boulette.
Il y en a peut-être encore. Hein. Donc,
Alors, pour les serveurs, je vais ajouter un addendum à ma réponse.
Oui.
Litchess fonctionne sur un serveur sur lequel il y a l'application Litchess elle-même,
ouais,
la base de données, le moteur de recherche, tout ça fonctionne sur un serveur.
Ouais.
Cependant, en fait, on a 12 serveurs.
Oui.
Parce qu'il y en a 11 qui sont offerts par des volontaires pour faire tourner Stockfish, qui lui est extrêmement gourmand en processeur, qui va servir à jouer les parties qui sont jouées contre l'ordinateur et qui va servir à faire toutes les analyses. Soit les analyses qu'on a demandées pour savoir où est-ce qu'on s'est trompé dans sa partie, ou alors les analyses automatiques pour détecter automatiquement les tricheurs. Ça demande beaucoup de processeurs. On a tout un parc de machines qu'on a gratuitement par des donateurs qui sont dispersés un peu partout dans le monde. Ces machines-là, elles peuvent tomber à n'importe quel moment, ça pose aucun problème, la charge est répartie sur les autres. Et puis si toutes ces machines-là, elles deviennent disponibles en même temps, Et ben l'intelligence artificielle va être ramenée en fait sur le serveur principal. Donc là, ça va être plus lent forcément pour les analyses. Il y aura moins d'analyses qui seront faites. Mais Litchess va continuer à fonctionner parfaitement sur un seul serveur à 130 euros par mois.
D'accord. Ou ils donnent un serveur ou ils donnent une part de leur serveur.
Ou une part de leur serveur, oui, ça dépend. Oui,
ils donnent une part de CPU, ce qu'on appelle.
Voilà. Il y a des gens, ils ont acheté un serveur, ils payent un serveur 30 euros par mois pour héberger un petit site dessus qui prend rien sur le serveur. Moi, je vois 4 cœurs qui sont là et qui foutent rien de la journée. Je me dis, bon, on va mettre une intelligence artificielle dessus.
Alors, on suppose déjà que l'architecture informatique, elle n'est pas simple parce que travailler avec 11 autres machines pour savoir si elles ont fini les analyses ou les machins, bon, enfin, c'est vraiment un peu de programmation quand même.
Certes.
Donc, dernière question avant notre deuxième pause, et puis après on va parler de cette histoire de Litchess et de son avenir. C'est le langage. Alors, tu m'as parlé un peu du langage. Moi, ce qui m'avait étonné, hein, et il va falloir que tu l'expliques aux auditeurs, c'est que tu as programmé Litchess dans 5 langages différents.
Non, j'ai mais programmé, pas en même temps. J'ai programmé Litchess 5 fois.
5 fois.
Mais pas toujours dans des langages différents. Parfois j'ai gardé le même langage, mais j'ai changé de paradigme ou de framework
ou de base de données. Qu'est-ce que tu appelles framework ?
Un framework, traduction littérale en français, quadriciel, c'est un ensemble de librairies qui vont fonctionner ensemble et de pratiques qui sont considérées bonnes avec lesquelles un développeur va construire un système complexe.
Voilà. C'est une méthodologie associée à des programmes d'appoint, quoi.
Voilà, on peut dire ça.
Une librairie, c'est des programmes d'appoint.
Ouais,
c'est-à-dire que si je veux faire apparaître une fenêtre sur mon écran, je ne vais pas redévelopper toute la partie graphique, etc. J'utilise des programmes qui ont déjà été développés et qui me permettent facilement d'afficher une fenêtre.
Voilà. Pour un site internet, un framework, un quadriciel, ça va être un ensemble de librairies qui va, par exemple, qui va servir à la fois à faire ce qu'on appelle du routing, c'est-à-dire à faire correspondre à chaque URL qui arrive la bonne action à faire sur le site, qui va fournir aussi de quoi générer du HTML pour générer les réponses, qui va aider parfois à se connecter à des bases de données ou à d'autres services en HTTP. Ça, ça fait partie des fonctionnalités d'un framework web.
Eh bien, disons, ça, c'est du boulot. Alors, ces langages que tu as utilisés, t'es arrivé à... Alors, pourquoi t'as changé et t'es arrivé à quoi, finalement ?
Là où on en est aujourd'hui, c'est un état duquel je suis assez content et je ne me vois pas encore en changer. Aujourd'hui, Litchess est écrit en Scala. C'est un langage qui est assez peu connu, qui gagnerait à être beaucoup plus connu. C'est un langage qui s'approche, pour ceux qui connaissent, du Haskell. C'est-à-dire que c'est un langage fonctionnel, immutable, pur, statiquement et très fortement typé. J'ai dit plein de gros mots.
Oui, il faut qu'il explique pour nos auditeurs, parce que là c'est du chinois.
Le Scala, c'est un langage
Si tu disais une variante du jeu d'échecs à quelqu'un qui ne sait pas jouer.
Eh oui, forcément, oui. Bon, j'ai essayé d'expliquer les lignes principales de cette variante.
Voilà.
Scala, c'est un langage qui est très moderne. Aujourd'hui, le monde de la programmation peut être séparé de manière un peu rude, mais bon, en deux catégories, des gens qui vont utiliser des technologies qui sont prouvées, et qui sont ce qu'on appelle enterprise, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont utiliser sans se poser la question de savoir s'il y a mieux ou pas. Et puis, il y a des technologies qui sont émergentes, des technologies qui sont beaucoup plus modernes, qui prennent peut-être un peu de risques, mais qui sont fondamentalement meilleures parce qu'elles s'appuient sur les erreurs des technologies précédentes. Scala s'inscrit dans cette deuxième catégorie. C'est un langage qui est très moderne, qui va s'inspirer de langages qui sont plus anciens, mais en corrigeant à chaque fois leurs problèmes, et qui va compiler, par contre, pour la machine virtuelle Java. Alors, la machine Java, c'est plusieurs choses. Java, c'est JavaScript, mais ça n'a absolument rien à voir.
Non, JavaScript, c'est encore autre chose. Hein.
Oui, mais il y a Java dedans, Java. Alors les gens font souvent la confusion. Java, c'est un langage. Le langage de programmation Java est très mauvais. C'est un langage de programmation qui a été inventé il y a une vingtaine d'années, qui n'a pas beaucoup pu évoluer depuis, malgré ce que beaucoup diront, pour des raisons de compatibilité. C'est un langage qui est extrêmement populaire parce qu'il a été extrêmement vendu par des gens qui, à mon avis, ne comprennent rien à la programmation.
Mais qui se comprennent beaucoup à la vente.
Mais ils comprennent beaucoup à la vente, ça n'y a pas de problème. Java est un très mauvais langage, on ne va certainement pas utiliser ça. Par contre, il existe une machine virtuelle Java. Une machine virtuelle Java, c'est comme un ordinateur qui fonctionne sur un ordinateur et qui va servir à faire fonctionner des programmes.
C'est comme si on avait un processeur simulé, finalement, en plus du processeur physique.
Tout à fait, et voilà. Qui va pouvoir s'occuper de beaucoup de choses à notre place, comme de gérer la mémoire, par exemple, et de gérer toutes les interactions avec avec la machine, ces choses de bas niveau dont on n'a pas envie de s'intéresser. Moi, j'ai envie de m'intéresser à programmer des échecs, pas à savoir comment manipuler de la mémoire. Donc, une particularité intéressante de ce cas-là, c'est qu'elle va compiler pour la même machine virtuelle que Java, avec des conséquences... C'est-à-dire qu'on a une plateforme qui est déjà, même si le langage est très nouveau, la plateforme est déjà très connue, elle est très supportée, elle est très performante, et on a déjà un écosystème très riche qu'on peut utiliser en Scala.
D'accord. Alors, tu m'avais dit aussi que ce langage, ce fameux langage Scala, que je ne connais pas par ailleurs, mais tu m'avais dit qu'il avait été utilisé, je crois, pour le programme informatique français dont moi j'avais entendu parler, je crois, qui s'appelle Coq.
Coq, c'est un autre langage de programmation, c'est un langage qui est fonctionnel. Et du coup, il y a dans ce cas-là des inspirations du langage Coq.
Voilà.
Et de la famille ML.
Alors, Coq, c'est carrément un langage, alors. Je crois que c'était un programme.
Il me semble que Coq, c'est un langage, oui.
C'est un langage aussi, mm-hmm. D'accord. Et qui sert notamment à faire des preuves mathématiques.
Tout à fait.
Un assistant de preuves mathématiques, en mm-hmm. fait. D'accord. Mais qui sert aussi, oui, d'accord, qui est un peu comme Prolog ou Lisp, c'est-à-dire qui doit être un système à la fois, un langage et programme à la fois, et qui permet de tester, mais finalement, si une phrase peut être démontrée ou pas. Voilà.
Tout à fait. Bon, c'est et la niveau programmation fonctionnelle statiquement typée consiste en fait à démontrer des propositions. La proposition d'une fonction est définie par son type et on dit que l'implémentation de la fonction va être la preuve de cette proposition.
Waouh. Ça, je dirais que c'est comme au jeu d'échecs. Finalement, ce coup est bon. Pourquoi? Mais parce qu'il fait maths.
Voilà.
Si, sinon, il serait pas bon.
C'est donc, ça. Proposition, c'est... démonstration.
Voilà, c'est exactement.
En technologie, sur le serveur, on a la base de données est assurée par MongoDB, qui est une base de données populaire aujourd'hui, qui l'était pas tant que ça quand je l'ai choisie. Je me félicite de l'avoir choisie parce que elle progresse bien encore aujourd'hui. C'est une base de données qui est non relationnelle. C'est-à-dire qu'il va avoir un schéma relativement souple, une base de données qui va être adaptée à des systèmes qui vont faire beaucoup d'écriture. Et sur Lichess, on fait beaucoup d'écriture dans la base de données, parce qu'on a en moyenne plus de 100 coups d'échecs qui sont joués par seconde, avec des pics au-dessus de 300 coups par seconde, et que pour chacun des coups qui sont joués, eh ben, on va écrire dans la base de données qui a joué quoi, combien de temps il a mis, toutes les mesures de détection de triche, l'historique de la partie, etc., sans compter toutes les autres décritures des interactions entre les gens.
D'ailleurs, je crois qu'aussi on a son historique d'élo, tiens, on n'en a pas parlé de ça.
L'historique du classement, oui, bien sûr.
On a aussi ça. Hein. Mm-hmm. Ouais. Super, excellent. Eh bien, écoute, on vient de finir cette deuxième partie, vous voyez, on est allé loin, bon, je vous promets qu'on s'arrête là, mais c'est pas mal, je pense que, vous voyez, que là, Thibaut... c'est grand maître international, vous voyez, là, il joue dans les tournois au niveau informatique, hein, où ça commence quand même à taquiner de la variante. Donc, on va s'arrêter là pour cette deuxième partie, avant la troisième, bien sûr, on va faire une deuxième pause musicale, toujours, bien sûr, bien entendu, une musique libre sur Fréquence Diagonale, et je vous donne donc rendez-vous juste après cette deuxième pause. À tout de suite. Thank you. fréquence diagonale, toujours lichess.org avec Thibaut Duplessis, son fondateur et développeur principal. Alors, on a parlé dans cette deuxième partie de la philosophie, on a parlé de licence de programmation, on a parlé serveur, on a parlé langage, toutes choses techniques. Maintenant, on va parler de choses beaucoup plus, proches des fonctionnalités, mais aussi de l'histoire de l'ICS. On va parler de l'histoire de l'ICS et aussi de comment contribuer. Donc ça, c'est un aspect fonctionnel. C'est pas jouer aux échecs, contribuer, c'est participer au serveur l'ICS. Vous voyez, mais c'est une autre façon de jouer. C'est aussi un jeu à l'informatique.
On peut contribuer en jouant aussi d'une manière que je détaillerai tout à l'heure.
Et on peut aussi contribuer en jouant, voyez-vous. Donc on peut contribuer de plein de façons différentes. Vous voyez, par exemple, ici, en faisant une émission fréquence diagonale sur l'ICS, on y contribue, voyez-vous,
absolument.
De façon indirecte, merci, mais on y contribue. Donc, alors, l'historique. Alors, donc, d'abord, l'ICS, bon, parce que je crois que je l'avais déjà vu, moi, il y a quelques temps. Bon, j'étais passé, j'ai dit, c'est pas mal, bon. Mais après, il n'y avait pas encore de tournoi, il n'y avait même pas de tournoi Arena, je pense. Et bon, il n'y avait pas de tournoi Suisse, encore moins. Bon, bref, bon, je suis passé, je suis reparti, bon. Et là, je suis revenu, j'ai dit, bah, c'est quand même vachement bien maintenant. Et je vais y rester. Donc, maintenant, j'y reste. Et alors, mais du coup, ça existe depuis quand ?
Ça doit faire 5 ans, à peu près, maintenant.
5 ans que ça a démarré la première version.
La première version publique. Ça a démarré d'une manière un peu ridicule. J'étais un développeur, je faisais du PHP, je travaillais dans une agence web. Je construisais des sites à l'appel toute la journée, des sites statiques. Rien de très excitant. Et puis, j'avais envie de découvrir le temps réel, la programmation en temps réel. Je voulais, comme expérimentation, faire quelque chose sur un ordi, sur une page internet, et que sur un autre ordinateur, il se passe quelque chose en même temps. Je voulais faire du temps réel sur internet. Les technologies étaient en plein boom à ce moment-là. On découvrait Ajax, on découvrait Comet pour les communications en temps réel. On n'avait pas de WebSocket, donc il y avait des challenges et ça m'intéressait. Donc je me suis demandé ce que j'allais faire comme programme pour essayer ça. À cette époque-là, je faisais des nouveaux projets à peu près un par semaine, et puis au bout d'une semaine, je les jetais, et puis je refaisais quelque chose d'autre. Donc là, une semaine, le projet, c'était, j'ai fait un petit échiquier sur lequel on pouvait déplacer des pièces. Il vérifiait pas du tout que les coups étaient légaux. Tout ce qui m'intéressait, c'est que quand on déplaçait une pièce, ça la déplaçait sur tous les gens qui étaient sur cette page-là. Voilà. Donc j'ai fait ça. Ça fonctionnait à peu près. Je l'ai mis en ligne, et puis...
Il y a du monde qui est venu.
À un moment, je me suis aperçu qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le site. Je n'étais plus seul. Alors, j'ai jamais su comment cette personne-là. J'ai jamais su qui c'était, d'ailleurs. Si tu m'écoutes, toi, la première personne qui est venue sur l'ICS pour faire cette première partie avec moi, tu te reconnais, dis-le moi. J'aurais jamais su qui était cette personne-là. Quand j'ai vu... Parce qu'on ne pouvait pas communiquer. Tout le monde était anonyme. Naturellement, il n'y avait rien sur le site. Il
n'y
avait pas de chat, il n'y avait rien. Du coup, j'ai créé un chat pour que s'il y a quelqu'un qui vient, qu'on puisse discuter. Et le lendemain, quelqu'un était là sur le site, on a pu discuter, la personne râlait énormément, elle dit « qu'est-ce que c'est que ce serveur d'échecs, c'est n'importe quoi, les coups sont même pas validés ». Je dis « ah bah oui, c'est vrai quand même, c'est pas très sérieux ». Donc j'ai retourné à mon code, et puis j'ai fait la validation des coups. Et puis le lendemain, la personne était encore là, et je lui dis « t'as vu, les coups sont validés ». Il me fait « oui, mais la prise en passant ». J'étais là « ah merde, la prise en passant ». Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Quelques itérations. C'est pas le moindre des problèmes. Hein.
Et non, les pions, pour un programmeur, les pions, c'est la pièce la plus compliquée
de loin.
Hein.
Oui, parce qu'il y a la prise en passant, et puis il y a aussi la promotion.
Et puis il y a le fait que la première fois, ils peuvent se déplacer de deux cases.
Et puis voilà, donc c'est bourré d'exceptions, le pion.
Et puis le fait que les cases où ils peuvent aller ne sont pas les cases qu'il peut attaquer. C'est la pièce la plus compliquée, certainement.
Ouais.
Voilà, et du coup, au fur et à mesure, j'ai ajouté des fonctionnalités. Il y avait de plus en plus de gens qui étaient là. Un jour, j'ai décidé de tout réécrire complètement parce que ça ne me plaisait plus. La technologie dans laquelle je travaillais, j'étais passé à autre chose, donc j'ai tout réécrit dans une nouvelle technologie. 6 mois après, je l'ai encore complètement réécrit avec encore des nouvelles technos, en changeant la base de données. Et puis 2 ans après, là, à ce moment-là, c'était encore tout en PHP. 2 ans après, c'est là que je l'ai réécrit en Scala. Et après, je l'ai encore réécrit une autre fois. Enfin, je vous passe les détails techniques, mais au début,
c'est toujours plus facile à réécrire parce qu'on sait où on veut aller. Tous les problèmes, on les connaît.
Tout à fait.
Donc, c'est forcément plus rapide.
Et
aussi.
On part sur des bases saines et construire quelque chose de zéro,
et
c'est
on
toujours,
améliore aussi.
C'est toujours mieux. Ouais. Par contre, c'est long. Hein. À chaque fois, ça prenait beaucoup plus de temps. Plus il y avait de fonctionnalités et puis plus pour tout refaire, ça prenait. Maintenant, il faudrait.
Tu réfléchiras deux fois maintenant.
Oh oui. Là, on est bon. Là, c'est bon.
Ouais. On va garder là.
Mais oui, ça a vraiment démarré comme un projet, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait une suite. Mais au fur et à mesure, c'est la communauté qui, dès le début, en fait, m'a poussé de l'avant. Dès cette première personne qui râlait parce que les coups n'étaient pas validés, c'est ça qui m'a poussé à aller de l'avant, qui a fait venir plus de gens, qui m'ont proposé plus de choses, plus de fonctionnalités, qui se sont mis à m'aider avec le code. Et c'est ce qui a fait que Litchess est devenu ce que c'est aujourd'hui.
Ouais, donc alors ça, donc c'est pour l'histoire, donc pour voir comme ça que parfois voilà, les projets qui ont du succès comme ça bah, partent pas toujours d'une réflexion en amont très poussée, mais simplement de l'envie de faire quelque chose.
Tout à fait. Contrairement à tous les sites d'échecs avec lesquels on est en compétition, j'en citais quelques-uns, bah, y a chess.com évidemment, Chessbase, Chess24, mais aussi GameKnot ou... Je sais plus, il y en a plein. Fix. Mais Fix, c'est mon compétiteur préféré. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont gratuits. Mais tous les autres sont payants. Et tous les autres ont démarré par un énorme investissement.
Oui.
C'est quelqu'un qui s'est dit, il y a du fric à faire sur Internet avec les échecs. On va essorer les joueurs d'échecs, on va leur faire cracher leur pognon et on va gagner plein d'argent. C'est formidable. Et ils ont levé des millions de dollars et ils ont embauché plein de gens. Et ils se sont mis à faire ça avec cet objectif, un objectif uniquement financier, avec des gros moyens dès le début. Nous, c'est vraiment tout le contraire. On est parti de rien du tout, de tout petit, et ça s'est construit de manière itérative, toujours avec cette philosophie du libre, avec les gens qui jouaient.
Ouais, la fameuse itération 1 plus 1 égale 3.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc, ça, c'est donc comment ça s'est développé et l'idée de base, hein, c'est tout à fait intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres anecdotes que tu peux nous dire là, depuis ces 5 ans sur le développement, des anecdotes un peu sur l'histoire là.
Eh ben,
des moments importants.
Oui, par exemple, il y a 6 mois, on a eu beaucoup de gens qui ont attaqué le site.
Alors, on a eu une attaque, une fameuse attaque DDoS, ce genre de choses.
Oh oui, oui, il y en a eu beaucoup. Alors, des attaques DDoS, maintenant, on en a environ une par semaine, et qui sont vraiment conséquentes, mais ça pose plus de problème. Plus personne s'en aperçoit qu'elles sont là, en fait, à part moi qui suis réveillé la nuit. Mais les systèmes arrivent à absorber maintenant ces attaques-là. Mais il y a 6 mois, il y a eu des attaques vraiment d'envergure qui étaient très intéressantes. Il y a une attaque particulièrement, je vais parler de celle-là, qui était assez bien menée, puisque il y a eu plusieurs attaques d'un coup. Déjà, quelqu'un a trouvé dans mon code, quelqu'un lit le... En fait, c'est là que j'ai appris qu'il y avait beaucoup de gens qui lisaient le code que j'écrivais tous les jours, parce qu'un jour, j'ai introduit une faille de sécurité dans le code sans faire exprès. La semaine d'après, quelqu'un a exploité cette faille de sécurité qui lui permettait d'injecter des coups dans des parties qu'il ne jouait pas. Et il s'est mis à utiliser cette solution-là pendant qu'il y avait des joueurs assez renommés qui étaient en train de streamer sur Litchess, de faire des parties en direct sur Litchess. C'est à ce moment-là qu'il est allé utiliser ça pour semer la confusion. En même temps, cette personne ou ce groupe de personnes, je ne sais pas, ont publié 2 bots qui sont capables de jouer sur Litchess. Un sous la forme d'un plugin de navigateur et un autre en tant que programme compilé pour Windows. Une petite merveille, ce programme, qui prenait des captures d'écran du site, qui était capable de reconnaître les images, de savoir où étaient les pièces, et ensuite de déplacer les pièces lui-même en déplaçant la souris. Le programme faisait ça tout entièrement. Donc, à la fois, ils ont trouvé une faille dans mon code, ils l'ont utilisée, et ils ont développé et diffusé 2 programmes qui permettaient de tricher sur Litchess, en même temps qu'ils faisaient des attaques DDoS sur le serveur principal. Une attaque vraiment généralisée, magnifique. Quand j'ai vu ça, j'étais très content, parce que ça veut dire que quelqu'un a jugé que ça valait la peine qu'il déploie autant d'efforts, et à mon avis probablement d'argent, pour ces attaques-là. Et c'était assez intense. Pendant 2 jours, tous les membres qui étaient capables d'aider à contrer ça m'ont bien aidé. Un des 6 admin de mon entreprise m'a aidé à régler les attaques DDoS sur le serveur. On a contré toutes ces attaques-là, ça a été contré assez rapidement. Mais c'était assez impressionnant. Et depuis, on en a régulièrement des attaques sur les sites.
Mais l'hébergeur en général, parce que tu es chez un hébergeur, contribue pas, lui, justement, à bloquer ce type d'attaque
On a de la mitigation DDoS parce qu'on est passé à un hébergement pro sur OVH.
Ouais.
Donc effectivement, maintenant, OVH gère la plupart des attaques DDoS. Ils mettent quand même 5 minutes à faire leur mitigation. Donc pendant 5 minutes, on est juste face au flux. Mais après, effectivement, ils gèrent ça assez bien. Si les attaques DDoS sont assez stupides, c'est-à-dire que c'est des attaques purement réseau et que ce n'est pas des attaques applicatives, alors la mitigation OVH va s'occuper de tout ça. Après, on a des attaques applicatives où les gens vont aller regarder dans le code source, essayer de trouver quelles requêtes et quelles parties du site sont les plus lentes et les plus sensibles. Et ensuite, ils vont pointer toutes leurs attaques sur ces faiblesses du code.
Ouais.
Ça, alors, c'est des attaques plus intelligentes.
Pour les auditeurs, pour simplement les attaques, ce qu'on appelle DDoS, là, c'est simplement des attaques, comme disait Thibaut, de flux, c'est-à-dire qu'on envoie beaucoup, beaucoup de requêtes.
Depuis plusieurs machines.
Depuis plusieurs machines, en ciblant en ciblant le site attaqué, tout simplement. C'est, en fait, on simule comme s'il y avait, je sais pas, 15 milliards de clients d'un coup, en gros, qui viendraient récupérer des informations, et forcément, pour essayer de que la machine ne puisse pas répondre. Voilà. Pour la noyer sous les demandes. Bon, voilà, donc c'est une attaque assez basique, assez classique, qui sont maintenant assez bien cernées. Bon, bref. Pour revenir, cette historique, avec ces anecdotes, et donc la récente ici, depuis 6 mois, on voit d'ailleurs, après ce que tu nous as dit, si on compte que ces 2 premières années, finalement, c'était un peu l'initialisation, finalement, il y a à peu près 3 ans qui tourne et qui a des joueurs, disons, qui commencent à jouer vraiment sérieusement dessus.
Quoi. Oui, tout à fait.
Voilà, donc c'est quand même un site assez jeune, hein, si on compare au site qui existe quand même, par exemple Fix, ça fait quand même...
Fix, c'est l'ancêtre.
Voilà, ça fait plus de 20 ans, donc voilà. Mais c'est pas le seul, même ChessBuzz, ça fait quand même très longtemps que, mm-hmm. que ça existe aussi, bon, pour pas les citer tous. Et quand on a vécu l'histoire un peu d'Internet, notamment jouer aux échecs comme moi, qui est une des premières choses que j'ai fait quand me connectant, évidemment, c'est de jouer aux échecs. On a connu tous ces sites, et certains qui ont vécu, d'autres qui ont été rachetés, d'autres qui ont disparu, et des sites qui sont développés de façon comme ça, aussi collaborative. Par exemple, il y a un projet dont tu as entendu peut-être parler, mais qui était soutenu par la GNU Foundation, justement, de Richard Stallman, dont on a parlé un petit peu. C'est le fameux projet Winboard, qui sert de client aussi pour Fix. On peut s'en servir. Mm-hmm. Enfin, il est resté à l'état, je dirais, de client pas beau. Quoi, hein. Je veux dire, il est tout pas beau, tout pas fini. On a l'impression d'avoir un programme des années 80 qui reste encore là, on ne sait pas trop comment.
Et c'est le cas, d'ailleurs.
C'est le cas. Mais bon, faut se dire, c'est pas parce qu'on lance un projet que forcément ça aboutit. Voilà, donc c'est quand même c'est intéressant, cette histoire-là. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser aussi, c'est l'avenir. Et puis alors, donc la partie contributive. Alors ce qu'il faut creuser là, avec toi, c'est comment on peut rentrer en contact un peu avec le background de l'ICHESS. Parce que jouer, tant qu'on joue, bon, ben, on peut être silencieux, jouer aux échecs, et puis et c'est très bien. Alors tu nous as dit qu'on pouvait contribuer en jouant, tu vas nous en parler. Et puis aussi, comment, si on veut contribuer plus activement, alors qu'on soit graphiste, qu'on soit traducteur, puisque tu as parlé des traducteurs, mm-hmm. ou qu'on soit bien sûr, bien entendu, informaticien, ce qui serait la contribution la plus technique, mais ce n'est pas la seule possible. Je crois aussi qu'il y a un salon IRC.
Voilà, tout à fait. Oui, voilà. Les contributeurs les plus importants se réunissent tous les jours sur le canal IRC Lichess, Diez Lichess, sur le serveur Freenode.
Voilà.
Donc c'est vraiment le point de départ. Quand on veut contribuer, on rejoint ce canal, et là, on peut commencer à parler de ce qu'on veut faire, et on est aiguillé par diverses personnes.
Mais c'est beaucoup en anglais pour l'instant, quand même.
Oui, toutes les communications sont en anglais. Oui.
Voilà, mais alors si on est français et qu'on ne parle pas bien anglais, comment on fait alors? On y va quand même. On va sur ce salon.
Lichess, c'est un site à vocation internationale, et la langue internationale de coopération,
ça reste l'anglais.
Ce que je dis, c'est l'anglais. Quoi.
D'accord.
En français, on va pouvoir communiquer avec moi. On est deux parmi vraiment la core team de Lichess. Il y a deux Français, il y a moi et il y a Vincent Vélocitaire, qui lui a spontanément fait toute l'application mobile de Lichess, mais il n'est pas très souvent sur le canal. Et toutes les autres personnes, dans la plupart, sont ni anglaises ni anglophones, vont communiquer en anglais en permanence parce que c'est indispensable, forcément.
Oui, alors il y a des contributeurs du monde entier, c'est ça?
Tout à fait.
Ouais. Alors, d'où ça vient?
Et bah, par exemple, un des plus anciens et des plus précieux contributeurs qui se fait appeler Clark Kay, c'est un jeune Australien, il a 19 ans, je crois. Lui, il a contribué beaucoup avec du code, il est toujours là, il a toujours plein d'idées. Il fait un peu de graphisme aussi. C'est lui qui a écrit l'algorithme génial qui génère les puzzles à partir des parties des gens sur les chess.
Oui.
C'est lui qui mène tout le combat contre les tricheurs, donc le combat, toute la partie automatisée. C'est lui qui va vraiment mener la charge. Voilà, j'ai un autre grand contributeur qui s'est appelé Evropi, qui lui est grec, qui lui va prendre en charge vraiment toute la partie traduction. Il va écrire tous les textes de contexte pour aider les gens à traduire. Il va gérer les modérateurs aussi. On a un avocat, même, par exemple, voilà, de profil complètement pas du tout technique. On a un avocat anglais qui, lui, est ravi de s'occuper de toutes les questions légales, chose que je déteste absolument, donc ça m'arrange très bien.
Il y a des questions légales, même pour un site comme ça.
Eh bien oui, par exemple, il a écrit les termes de service.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Bien sûr.
Il n'y a pas longtemps, on a lancé une compétition, les gens peuvent dessiner On veut faire des nouveaux t-shirts, en fait. On veut faire des t-shirts et des hoodies Lichess. Et puis, on a ouvert une compétition libre. Les gens nous envoient leurs propositions de design. Et puis, celle qui nous plaira mieux, et ben, on va l'imprimer sur les t-shirts. Donc, lui, il s'est occupé de... Pour lui, en tout cas, il faut écrire, il faut cadrer la compétition avec les prix, etc. Il nous offre un cadre légal à toutes ces choses.
Oui, et puis il faut définir la licence de ce qui va être proposé. Parce que, évidemment, si quelqu'un propose et qu'après il dit, attendez, c'était sous copyright, une fois que tu as imprimé 10 000 t-shirts, t'es embêté.
Et bah oui. Forcément. Il y a des gens qui vont se... Enfin, voilà, on a tout un tas de profils techniques ou pas, d'un peu partout dans le monde. Et tout ce beau monde va se retrouver dans le canal Lichess sur IRC. C'est ouvert à absolument tout le monde, pas qu'aux contributeurs. Il y a plein de gens qui sont dans ce canal, même sans pouvoir contribuer, mais juste parce qu'ils aiment bien pouvoir lire nos conversations, voir dans quelle direction on va. Et parfois, quelqu'un va prendre la parole pour dire « Ah bah, si vous faites ça, je pense que ce serait pas mal de le faire de cette manière-là. » Par exemple, exemple concret, la semaine dernière, j'ai développé un système qui permet de faire des simultanés sur Lichess.
Ah oui.
De la même manière que Fischer avait fait cette fameuse simultanée où il avait joué 50 personnes et il a gagné, il me semble... 47 parties, il y a eu 2 nuls et il en a perdu une,
ouais.
Il me semble. Et ben, si Fischer était là aujourd'hui, il pourrait faire la même chose sur Lichess. On peut sur Lichess créer une simultanée, choisir une ou plusieurs variantes, même si on est assez fou pour jouer plusieurs variantes dans la même simultanée. On choisit une horloge et on se retrouve à jouer
des variantes de jeu, c'est-à-dire pas des variantes de jeu, oui, bien sûr. Mais jouer aux atomiques ou à ce qu'on
veut. Voilà, tout à fait. Ouais. Et on peut héberger une simultanée sur Lichess. Moi, j'ai eu l'idée, en fait. C'est Ophi, cet avocat anglais, qui lui, le premier, a eu l'idée. Il a dit, Thibaut, il faudrait faire ça. Si on fait ça, des grands maîtres vont vouloir venir jouer sur Lichess,
oui,
parce qu'ils veulent faire des simultanés sur Internet.
Oui.
On en a discuté, on a fait super, on fait ça. Moi, j'ai commencé à développer ça. Au fur et à mesure que je le développais, j'en parlais dans ce canal Lichess sur IRC. Et quelqu'un m'a dit, Thibaut, si tu fais ça, ce qui serait bien, ce serait que... je sais plus ce qu'il m'a dit. Mais non, en plus, c'est toi qui me l'as dit,
ouais,
ça. C'est toi qui me l'as dit qu'il fallait qu'on puisse sélectionner quels joueurs vont pouvoir participer
à la
simultanée.
Voilà. Mais bien sûr, oui.
Bon, ouais. Et ben, cette fois-ci, le canal IRC était dans la vraie vie, puisqu'on était dans un bar, tu m'as proposé que l'hébergeur de la simultanée puisse choisir les personnes qui vont y participer, et c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Mais bon, l'exemple était mauvais, du coup, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde a vraiment la capacité à influer sur le développement de Lichess et à proposer des améliorations à ce qui est en cours de développement, juste en étant dans ce canal.
Oui, tout à fait. Donc voilà, donc le canal où vraiment les choses se passent, c'est ce fameux canal IRC. Donc on a l'adresse sur le site Lichess.
C'est le canal Lichess sur IRC, oui.
Voilà. Non, mais si on va sur Lichess, on va sur... il y a marqué quoi, canal Lichess dans les liens.
Non, je crois pas qu'on le mentionne sur le site, non.
Ah, mais il faudrait alors, peut-être.
Il faudrait peut-être.
Oui, il doit être dans l'aide, il doit quelque part. Oui. Alors, voilà, donc ça c'est pour le canal... Lichess. Alors tu disais aussi on pouvait voilà contribuer en jouant. Alors comment? C'est quoi ça?
Eh bien, il existe deux services sur Internet qui s'appellent Twitch et Hitbox qui sont les plus populaires pour faire des streams. C'est-à-dire des gens qui vont simplement filmer leur écran et diffuser en direct ce qu'ils sont en train de faire sur leur machine. Il y a beaucoup de gens qui vont streamer des parties d'échecs. Et ça, sur Lichess, on l'a intégré. Et on a quelques streamers plus ou moins officiels qui, quand ils vont faire un stream d'échecs, ça va être affiché sur la page d'accueil de Lichess. Donc c'est bon pour nous parce que ça fournit du contenu interactif et en temps réel pour les utilisateurs de Lichess. Et c'est très bon pour eux parce que ça ramène beaucoup de gens de Lichess sur leur stream. Donc on a une symbiose avec ces streamers d'échecs sur Twitch et Hitbox. Et c'est une excellente manière de contribuer. Il suffit d'avoir un microphone, idéalement une webcam, mais c'est même pas nécessaire. Et en jouant aux échecs, et ce qui est très important, en commentant ses coups, il faut idéalement que le stream ait une valeur éducative pour les personnes qui la regardent,
ouais.
Et ben on peut contribuer à Lichess, et puis en même temps, arriver à connaître la communauté, et puis créer une petite communauté autour de son stream, parce que chaque streamer est vraiment unique.
Alors explique pour les auditeurs, parce qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est qu'un stream, explique ce que c'est exactement, et comment on peut le faire concrètement.
L'idée d'un stream, c'est comme une émission télévisée, et chacun peut avoir sa propre télé, et chacun peut démarrer son émission. La personne va allumer sa webcam et ça va diffuser son image ou tout au moins le son, on n'est pas obligé d'avoir l'image mais juste le son et l'écran de la personne, c'est-à-dire l'échiquier et les parties qu'il est en train de jouer, ça va les diffuser à X personnes, toutes les personnes qui vont juger bon de
alors
regarder ça.
Comment on fait pour diffuser alors? Ça en diffuse où?
Alors pour diffuser, on va utiliser un site qui s'appelle, moi je recommande hitbox.tv. sur lequel on crée un compte. Et à partir de là, c'est très simple. Je ne l'ai pas fait moi-même, mais je suis à peu près sûr que c'est très simple. Il va falloir probablement installer un peu de logiciel sur son ordinateur. Et puis, on va pouvoir commencer à streamer. On va avoir ses premiers auditeurs. À partir de là, il faut m'en parler. Moi, je vais venir voir le stream. Et si j'estime que le stream est il faut qu'il soit intéressant, mais il faut que la personne, par exemple, ait un bon niveau d'échec et explique quelles sont ses décisions. Ou alors, il faut que le stream soit marrant ou vraiment sympa à regarder. Enfin, si je pense que le stream a de la valeur, on va le mettre en valeur sur l'Itchess. Et puis, des choses sympathiques vont se mettre à arriver.
Voilà, donc vous pouvez venir streamer vos parties et pourquoi pas accéder à la grande notoriété du streamer star.
Une autre alternative, c'est de faire des vidéos qui là sont pas en temps réel, faire des enregistrements pour YouTube. On a une librairie de vidéos sur l'Itchess sur laquelle on recense et on tag les vidéos qui ont une vraie valeur éducative. Que ce soit pour les débutants ou pour les joueurs plus avancés, vous pouvez aussi faire des vidéos de ce type-là et nous dire que vous les avez faites et on les ajoutera sur les sites.
Voilà, donc aussi, on peut donc tout le matériel échiquier disponible et donc on peut contribuer par ces moyens-là en rajoutant des contenus directement ou indirectement donc pour les joueurs et les...
On est preneur aussi d'articles de blog si quelqu'un veut bloguer sur les échecs. Du contenu. Sur le blog de l'Itchess, on a beaucoup de contenu technique. Moi, je me sers du blog surtout pour annoncer les nouvelles fonctionnalités. On a un petit peu de contenu purement échiquien sur le blog, mais j'aimerais bien en avoir plus. Et si quelqu'un veut écrire, faire la couverture, par exemple, d'un grand tournoi qui est en train de se passer, ou tout simplement nous parler d'une partie qu'il a trouvée très belle, il peut écrire ce contenu et il sera publié sur l'Itchess avec la licence, cette fois, Creative Commons.
Et forcément en anglais aussi ou en français, ça va être possible
Toujours en anglais. Hein. Toujours en anglais. On n'a pas encore d'alternative au niveau des forums, on n'a pas d'alternative française, si vous voulez.
Quoique le site, évidemment, propose tous les langages. Hein,
le site, voilà, les fonctionnalités du site sont traduites dans tous les langages. Mmh. Par contre, le contenu du site, les forums, enfin ouais. les forums naturellement et les blog posts ne sont pas traduits dans tous les langages.
Ouais. Bon, c'est peut-être compliqué après... mais bon, ça c'est une discussion plus générale, mais d'agréger tous les sujets sur une seule plateforme, parce que c'est des sujets qui sont pas forcément reliés entre eux, qui peuvent être assez indépendants. Par exemple, quand on fait de l'écrit, par exemple, on peut très bien pouvoir vouloir parler, par exemple, des sites de jeux en général. Donc c'est mieux dans ce cas-là de ne pas l'écrire depuis la plateforme d'un site de jeu. Voilà.
Donc, pourquoi
Parce que pour des raisons d'indépendance et de...
D'accord.
Voilà. Mais bon, peu importe. Mais c'est bien, de toute façon, plus on essaye. De toute façon, c'est en essayant les choses, souvent, qu'on les réussit. C'est pas forcément les intuitions de départ qui fonctionnent.
Tout à fait, ouais. On a déjà eu des gros chantiers qu'on a complètement annulés. L'année dernière, on avait des pools de joueurs, c'est-à-dire de l'auto-pairing dans des salons en mode ICC. En fait, j'avais développé ça entièrement et ça a été complètement supprimé 2 mois après parce qu'en fait, c'était pas assez populaire, c'était trop proche à la fois des tournois et des méthodes de jeu standard, c'était vraiment entre les deux. Donc on essaye diverses choses, ça fonctionne, ça reste, ça évolue, si ça fonctionne pas, on les enlève parce qu'on essaie de garder le site simple.
Et, alors voilà,
on n'a pas peur de...
Pour l'avenir,
de revenir en arrière.
Pour l'avenir, quels sont les gros chantiers, les grandes modifications qui sont prévues, disons... à court ou moyen terme, et puis à plus long terme éventuellement, tes rêves fous. Mais bon, sinon à moyen terme, par exemple, est-ce qu'on va enfin avoir un tournoi suisse?
Certainement. Très certainement. Et avec des grilles américaines.
Et avec des grilles américaines de qualité.
De qualité, naturellement.
Ouais. C'est important, je pense, parce que d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de sites qui ont proposé des belles grilles américaines qui sont quand même très agréables à regarder. Et passionnante à vivre quand on fait le tournoi, pendant le tournoi même, parce que ça permet à la fois d'avoir le classement, mais aussi de voir contre qui on a joué, donc de se placer par rapport à des opposants contre qui on a perdu une partie de façon pénible, par exemple pour savoir si on va lui passer devant, ou ce genre de choses, bon bref. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de sites qui proposent ça, je crois que ChessBase le faisait bien, mais bon, ChessBase est non libre et payant, et pas forcément d'ailleurs top après au niveau interface sur tous les sujets.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Et alors, et après, quelles sont d'autres fonctionnalités, disons, un peu importantes, parce que pas les petites fonctionnalités, on sait bien, mais disons un peu importantes, qui sont éventuellement prévues?
Eh bien, on va continuer d'ajouter des variantes, des modes de jeu, d'autres modes de jeu. On va essayer, ça va être un assez gros chantier, d'ajouter les variantes qui sont les plus demandées, qui sont le Crazy House et le Bug House.
D'accord.
Reconnus comme Blitz A4.
Avec des tournois aussi?
Oui, bien sûr. Bien sûr, toutes les variantes qui sont développées sont disponibles en temps réel, en correspondance, en tournoi et partout dans le site.
On va avoir des coupes aussi, je crois, non ? C'est prévu, ça, en fait.
Des coupes, oui, mais ça, c'est des petites features. Ça, c'est facile, ça.
Oui, mais c'est important.
C'est son verre. Quelque chose qui est très demandé, c'est des chats en dehors des parties, en mode à la Facebook, en fait.
Ouais.
Les gens veulent vraiment ça pour augmenter l'aspect communauté du site.
Ouais.
Je vais probablement faire ça. Après, je ne sais pas, on n'a pas vraiment de roadmap à moyen ou à long terme. C'est quand quelqu'un est passionné par quelque chose et qu'il veut apporter sa pierre, paf, il le fait tout d'un coup et puis on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on fera demain.
Il va y avoir un podcast alors bientôt sur Lichess en français.
Eh ben, peut-être, va savoir. On ne sait pas encore. En général, quand on a une idée d'une fonctionnalité, on ne la reporte pas dans 6 mois. C'est soit on ne la fera jamais, soit on la fait tout de suite.
Ouais.
Donc la roadmap s'écrit vraiment. Par exemple, aujourd'hui, on a des simultanés. Je ne savais pas la semaine dernière qu'on allait les avoir. On a une librairie de vidéos. Elle a été construite sur un coup de tête il y a 2 semaines, celle-là. Ouais. On ne savait pas du tout avant. C'est au fur et à mesure que les gens nous proposent des idées géniales et que les gens veulent contribuer que les choses apparaissent et se font. Mais je n'ai pas vraiment de visibilité.
D'accord. Et ça te prend moins de temps quand même aujourd'hui qu'au début ?
Non.
Non, autant, voire plus.
Ça me prend tout mon temps.
Ouais. Alors, je crois, et tes rêves fous, alors éventuellement ? Là, à long terme, disons, horizon 5 ans, que t'imagines, ou à 10 ans, t'imagines quoi ? Te faire racheter par Google pour 5 milliards de...
Mon Dieu. Certainement pas. Il y a des promesses qui sont inscrites très clairement sur le site. C'est que Lichess sera toujours libre. Lichess sera toujours gratuit pour tout le monde, toutes les fonctionnalités.
Gratuit, donc. Ouais.
Mais vraiment libre, gratuit. Il y a plein de sites qui se disent gratuits, mais en fait, c'est gratuit pour jouer. Mais après, si tu veux ça, il faut payer. Ouais, non, ouais. Nous, c'est tout est gratuit absolument pour tout le monde et sans aucune publicité. Ça, c'est des promesses qui sont inscrites sur le site. Et sur lesquels on ne reviendra jamais en arrière. Donc, mes rêves.
Et la licence fait foi, c'est-à-dire qu'effectivement, la licence, le code sous lequel est écrit le site, fait foi de cette possibilité, parce qu'à la limite, même si Lichess avait des problèmes, on pourrait récupérer le code, qui d'ailleurs est publié sur GitHub,
GitHub. Et puis recommencer ailleurs. Si Lichess commence à faire des bêtises, quelqu'un le forkera et ça deviendra populaire ailleurs.
Exactement.
Mais vu qu'on ne le fait pas, ça reste.
D'où l'importance d'avoir compris cette problématique de licence,
tout à fait.
Qui est bloquante dans d'autres circonstances. Mais évidemment, ça suppose une très grande confiance des développeurs, ce que tu sembles avoir, évidemment, c'est ce niveau de confiance très important envers les gens qui y participent, et inversement, les gens qui y participent, qui ont la confiance parce que y a cette ouverture. Alors, donc, pas te faire racheter par Google.
Non, certainement pas, ni par personne. Non, moi, ce qui me plairait à long terme, ça, je ne le vois pas encore venir, mais j'y travaille, ce serait que je devienne de moins en moins indispensable au projet. Aujourd'hui, si je disparais, Lichess, c'est foutu, basiquement. On a à Lichess ce qu'on appelle les programmeurs un bus factor de 1. Le bus factor, je vais l'expliquer pour les auditeurs, un bus factor, c'est-à-dire le facteur bus sur un projet informatique, c'est combien de personnes peuvent passer sous un bus avant que le projet informatique soit fichu.
Oui, c'est
ça. À Lichess, on a un bus factor de 1. Si je passe sous un bus, c'est fini.
Ouais.
Donc il faut, et j'y travaille, qu'il y ait d'autres personnes qui soient capables, ou même si j'ai envie de partir en vacances, ou si j'en ai marre tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer ? J'essaie de me rendre de moins en moins indispensable, de former des gens sur toutes les parties différentes du site pour me remplacer si je ne suis pas là ou si j'en ai marre. Et ça veut dire aussi donner les clés du serveur à des personnes de confiance.
Oui.
Il ne suffit pas d'avoir le code source, il faut aussi avoir les clés du serveur pour pouvoir continuer à faire vivre la base de données. Parce qu'avec juste le code source, on aurait perdu tout l'historique des parties des gens. Donc idéalement, à long terme, dans 5 ans, je voudrais pouvoir, si je veux, ne plus rien faire du tout et que tout continue à se dérouler parfaitement.
Oui.
On n'y est pas encore.
Et continuer à dérouler, ça veut dire aussi continuer à se développer, et pas uniquement
à se maintenir
tourner,
déjà, au moins, ce serait formidable.
Ouais.
Et après, en plus, à se développer.
Ouais.
Mais développer, c'est pas le plus difficile. C'est la maintenance qui est vraiment le plus difficile, plus que les nouveaux développements.
Ouais, ça demande du temps et de l'énergie.
D'accord, donc ça c'est vraiment ton gros projet, cette transmission finalement. Hein. Mais c'est souvent, souvent ce qu'on cherche à faire, c'est quand on a évidemment mis au point quelque chose au bout d'un moment, et bon, on se pose la question de la transmission. C'est ce que font les entrepreneurs aussi, beaucoup. Hein. Quand ils ont créé quelque chose qui tourne, en général, ils se demandent comment ça va durer.
Oui, on veut que les choses nous survivent, on veut,
ouais.
Voilà, on veut que nos créations nous survivent, on veut laisser un héritage.
On veut laisser quelque chose qui soit un peu plus durable que notre propre existence, en quelque sorte. Mm-hmm. Hein, voilà. Ce qui est le cas du jeu d'échecs, tu vois. Celui qui a créé le jeu d'échecs, il a réussi son coup.
Oui, ça va. Pas de bol, personne ne se souvient qui c'est.
Oui, mais c'est pas grave, sa création lui a survécu. Il a fait en sorte, justement, qu'il ne soit pas indispensable. On a même oublié son nom.
Oui.
Bon, il n'était pas tout seul. Comme il y a Joël Lautier, qui est un grand maître français, peut-être que tu as entendu parler.
Pas vraiment.
Un grand maître français qui a été champion du monde junior, qui a fait partie des 10 meilleurs joueurs mondiaux, ou des 15 meilleurs, je ne sais plus exactement, mais qui est une des bêtes noires de Kasparov. C'est un des rares joueurs au monde à être positif contre Kasparov. Et une fois, il avait dit, sur une émission de télévision, je crois bien, il avait dit, mais on peut penser que le jeu d'échecs a été fabriqué par des dieux, tellement il est parfait. Voilà. Et c'est pas faux quelque part, parce que il a un, voire peut-être deux millénaires même d'amélioration. Et donc, il n'y a pas d'homme qui vive deux millénaires. Donc ça peut être forcément qu'un dieu.
Ou c'est la conscience collective.
Voilà, alors après, voilà. Ça dépend ce qu'on appelle dieu.
Tout à fait.
Voilà, donc bah, écoute, merci Thibaut. Pour cette émission spéciale, donc Lichess, vraiment très intéressante. Je crois qu'on a fait le tour de beaucoup de points intéressants de Lichess. J'espère que ça vous a donné envie d'aller tester Lichess et pourquoi pas éventuellement même d'y contribuer activement si vous pouvez. On a donné des pistes aussi, mais même y jouer tout simplement, découvrir que c'est vraiment, 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 moi je vous l'assure, un des meilleurs sites de jeu dans le monde aujourd'hui. C'est pas un hasard s'il est classé numéro 2, c'est que on a envie d'y jouer, quoi. On a envie d'y jouer. Vivement qu'il y ait des tournois. Voilà, merci Thibaut, merci à toi.
Merci Stéphane.
Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Fréquence Diagonale, bien entendu. Et je vous laisse avec notre générique fétiche, Broken Embraces. Au revoir.